السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله تعالى en cette soirée du mercredi ذو القعدة 1434 de l'Hégire, 18 septembre 2000 d'après le calendrier chrétien. Donc c'est le troisième cours, inshallah ta'ala, du livre Le dogme du monothéisme de Cheikh Fawzan, Hafidahullah subhanahu wa ta'ala. On avait parlé dans le deuxième cours de yani, comment Al-Sunna ou Jama'a donnait de l'importance à la Aqidah et quels étaient les points, les points faibles qui faisaient de sorte que beaucoup de gens ont aujourd'hui dévié de la Aqidah et dévié de la vraie aqida. Il se trouve, l'iyadu billah, dans une aqida fausse et égarée. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va voir quels sont d'abord, quels sont les moyens de protection, et ensuite, on va commencer, inshallah, la clarification de la signification du monothéisme et ses catégories, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc d'abord, les moyens de protection contre cette déviation. Contre cette déviation de la Aqida. Cette déviation, bi'idhnillah azza wa jal. Le premier moyen, ce serait le retour au Coran et à la Sunna, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs. Cheikh Fawzan, hafidahullah, le retour au livre d'Allah azza wa jal et à la Sunna de son messager, alayhi salatu wa salam, afin d'en acquérir la croyance correcte, à l'instar des pieux prédécesseurs, radiyallahu ta'ala anhum, qui puisaient leur dogme de ces deux sources, ne réformera les dernières générations de cette communauté que ce qui réforma les premières générations en prenant connaissance des croyances des groupes qui ont dévié et de leurs arguments spécieux pour les réfuter et mettre en garde contre eux. Car celui qui ne connaît pas le mal risque d'y tomber. Je prends un exemple très simple. Ici, on a dit pour remédier à la déviance, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit revenir au Coran et à la Sunna d'après quoi? D'après la compréhension des pieux prédécesseurs. Car il est possible de revenir au Coran et à la Sunna, mais ce n'est pas d'après la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est ça le problème. Sinon, tous les musulmans du monde disent nous sommes Coran et Sunna. Je ne pense pas qu'il y ait un musulman au monde qui dise yani, sauf à part yani, par exemple les Coranions qui disent seulement Coran selon les koufars. Sinon tous les musulmans disent nous Coran et Sunna, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que ça dépend comment tu comprends le Coran et la Sunna. Naam. C'est pour cela que chacun va comprendre le Coran et la Sunna comme il veut. Alors nous, pour être sûr de ne pas avoir dévié, on doit suivre le Coran et la Sunna comme qui? Comme l'ont compris les salafs. C'est qui les salafs? C'est ceux qui ont vécu avec le prophète, les sahaba, ensuite leurs enfants, les tabi'un, et les enfants de leurs enfants, les tabi'u tabi'in. Pourquoi spécialement ceux-là? Car ceux-là ont spécialement et spécifiquement une tazkiya du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit « Khayrun nas qarni » Il a dit les meilleurs des gens, ce sont les gens de mon siècle, c'est-à-dire les sahaba. Ensuite, ceux qui vont les suivre, c'est-à-dire les tabi'in, leurs enfants, les tabi'un. Ensuite, il a dit ceux qui vont les suivre. Donc ceux-là, alhamdoulillah, ils ont une tezkiya. À part eux, personne n'a une tezkiya. Personne n'a une tezkiya. Donc, si on se suffisait au Coran et Sunna, on risque quoi? On risque vraiment de perdre la boussole. N'allons pas loin, tout à l'heure, tout à l'heure. Et comme chaque, aujourd'hui c'est mercredi, comme chaque mercredi je crois, en ce moment, il y a un salon qui diffuse un cours. Ah, un cours, zama, 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 d'Allahu Akbar, dans la Aqida, qui s'appelle cours de religion en direct. Donc si tu rentres là-bas, il va te dire Coran et Sunna. Et il va te dire mieux que cela. Il va te dire c'est nous, Ahlus Sunna. Tous les autres sont égarés. C'est nous qui, alhamdoulillah, nous portons l'étendard de la Sunna. Mais bien sûr, si, naam, si quelqu'un rentre dans leur salon et a de la science, il va vite découvrir leur égarement. Mais s'il n'a pas de la science, il est nouveau, ou bien il est reconverti, ou bien il est tout juste il vient d'ouvrir ses yeux sur la quête de la science, il va vite dévier et dire ils sont mashallah. Naam. Mais eux, est-ce que ils comprennent le Coran et la Sunna d'après les pieux prédécesseurs? Non, par Allah. Je jure par Allah que non. Mais ils suivent le Coran et la Sunna d'après les Ash'arites. Ah, il va te dire, nous on suit Abu Hanifa et on suit le madhhab al-Ash'ari. Le madhhab al-Ash'ari, les gens de la Sunna et du consensus, sont unanimes pour dire qu'il est dans l'égarement. Dans l'égarement, dans la Aqida. Pourquoi? Parce que il interprète les attributs. Tu lui dis, Allah Ta'ala descend, il te dit jamais. Tu lui dis pourtant le hadith est classique. Qu'Allah Ta'ala descendait chaque nuit, quand c'est le dernier tiers. Il te dit oui, mais c'est pas lui qui descend, c'est la rahma qui descend. Ou bien c'est un ange qui descend. Et comme ça. Ah bon, la rahma est l'ange. Comment se fait-il à la fin du hadith? Le hadith dit qu'Allah Ta'ala descendait, il disait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'invoque ou me demande des choses, je l'exauce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le repentir, je l'accepte. Et comme ça. Donc est-ce que la rahma maintenant parle? La rahma, c'est deux. Et si c'est pas la rahma, c'est grave. Al-Muhim. Nous, Inch'Allah Ta'ala, donc, on suit le Coran et la Sunna d'après la compréhension des pieux prédécesseurs. Sinon, il y a la compréhension des Mu'tazila, la compréhension des Maturidiyah, la compréhension des Ahbash, la compréhension des Tikfiriyin Khawarij, la compréhension des Rawafid, et comme ça. Et tous ceux-là et celles-là sont des sectes égarées. Naam, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point. Premier point, c'est revenir, yani, au Coran et à la Sunna. Deuxième point. Il a dit prendre soin. C'est-à-dire le soin d'enseigner le dogme authentique. Il a dit prendre soin d'enseigner le dogme authentique. Il a dit le dogme des pieux prédécesseurs à travers les différents niveaux d'études. Lui aménager dans le programme des leçons suffisantes et porter un majeur dans la méticulosité des examens. Vous n'avez pas écrit numéro 1 pour savoir si vous me suivez ou pas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Troisièmement, il a dit l'étude des livres de la pure salafie, ce qui te permet de ne pas dévier des salafs et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Entre autres, c'est l'étude des livres de la pure salafie. Le cheikh a dit que l'étude des livres de la pure salafie soit établie et que l'on s'éloigne des livres des groupes égarés, tels que le soufisme. Écoutez, le soufisme. Les Ahbash font partie des soufismes. Et les innovateurs. Le djihmisme. Les Ahbash font partie des mythes. Mu'tazilisme. Si vous ne savez pas ce que c'est, tout ce... L'ash'arisme. Les ash'arites, on a cité tout à l'heure. Le maturidisme. Ils suivent Mansour. Comment il s'appelle Mansour Maturidi, naam, et autres. Sauf, il a dit le cheikh, sauf dans le but de les connaître afin de réfuter ce qu'ils contiennent comme erreur et de mettre en garde contre eux. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de lire des livres qui ne sont pas des livres salafis. Sauf quoi? Sauf si je lis les livres des égarés pour connaître c'est quoi leur faute pour pouvoir les réfuter. Car quelqu'un qui ne connaît pas la faute de quelqu'un ne peut pas la réfuter. Mais si je connais quelles sont tes fautes, je peux réfuter tes fautes. Mais les savants disent, c'est interdit à un débutant ou à quelqu'un de moyen dans la science d'aller lire le livre des Mubtadi'a. Car il risque de trouver desquels il n'a pas de réponse. Mais si par contre la personne est balèze dans la science, mashallah, vraiment forte, on dit en arabe mubarraz, mubarraz, vraiment, celui-là, il peut lire les livres des Mubtadi'a dans le sens de connaître quelles sont leurs fautes pour les réfuter. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, wa kadhalika, une seconde, il a dit wa kadhalika nusarrifu al-ayat, il a dit walitastabina sabil mujrimin. Walitastabina sabil mujrimin. Il a dit pour que le chemin des criminels te soit clair. Non. Enfin, le cheikh dit enfin, quatrièmement, il faut quoi? Il a dit la forme, le dogme des les aberrations de ceux qui s'en sont égarés. Il faut yani, former des prédicateurs, des gens qui font le prêche du vrai dogme, comme ça, pour que ça se propage. Et en même temps, pour yani, réfuter, démolir yani, les bid'as des égarés. Les bid'as des égarés, surtout dans le dogme. Surtout dans le dogme. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour ce qu'il fallait lire et ce qui a rapport avec le cours précédent. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, on commence le nouveau cours dont le titre est. Parce que voilà le titre. Une seconde. C'est pas celui-là aussi. Une seconde. Parce que j'ai écrit le titre. Une seconde. Je cherche le titre. Je crois que c'est celui-là. Non, deuxième chapitre. La clarification de la signification du monothéisme et ses catégories. La clarification de la signification du monothéisme et ses catégories. Le monothéisme, tawhid, il s'agit d'affecter en Allah Azza wa Jal, spécialement l'adoration. Ensuite, de lui dévouer l'adoration d'autrui, de lui confirmer les plus beaux noms et attributs qu'il connaît et de l'exempter de tout manque de défaut. Par cette définition, nous voyons que le monothéisme englobe ces trois catégories que l'on exposera comme suit. Donc, je répète, c'est quoi le monothéisme ? C'est tawhid. Et si quelqu'un va dire c'est quoi la différence entre tawhid et aqida ? On a expliqué que ça soit clair. C'est quoi la différence entre tawhid et aqida? Tawhid, ça rentre dans la aqida. C'est une part de la aqida. La aqida, c'est plus vaste. Et tawhid, ça fait partie, une petite partie, à l'intérieur de la aqida. C'est pour ça que tout aqida, tout tawhid, c'est de la aqida. Mais pas tout aqida, c'est du tawhid. Pour expliquer encore, le tawhid, c'est ce qu'on a dit maintenant, affecter Allah Azza wa Jalla, la création, l'organisation, etc., c'est trois catégories. La aqida, c'est plus vaste. La aqida, c'est par exemple le fait de parler de la tombe, le fait de parler du paradis, le fait de parler du sirat, le pont, le fait de parler du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de parler de la balance. Tout ça, c'est aqida, mais c'est pas tawhid. Donc, tout tawhid, c'est aqida. Et pas tout aqida, c'est tawhid. D'accord. Donc maintenant, on avait dit que le tawhid se divisait en trois groupes essentiels. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va voir seulement le premier groupe. Et l'essentiel, c'est pas d'apprendre beaucoup, mais de retenir ce qu'on apprend. D'ailleurs, les trois groupes dans le tawhid de la seigneurie, le tawhid de la divinité, le tawhid des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. On ne peut être muwahid, on ne peut être monothéiste que si on a l'unicité de ces trois sortes. L'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans la divinité, l'unicité, tawhid, dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla. On va voir maintenant, un par un, c'est quoi ces trois groupes d'unicité. On va se limiter aujourd'hui à l'unicité de la seigneurie bi'idhni Azza wa Jalla. J'aimerais juste ici faire une petite remarque. Certains ajoutent l'unicité, je vais écrire en même temps, l'unicité du jugement. Du jugement. Certains rajoutent une quatrième sorte d'unicité, qu'ils appellent l'unicité du hukm. Le hukm, c'est-à-dire que le gouverneur doit juger avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ajoutent ce jugement, une seconde. Certains ajoutaient ou bien rajoutaient une quatrième sorte de tawhid qu'ils appellent le tawhid du jugement. Tawhid al-hukm. Il te dit, le gouverneur doit juger avec la loi d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est une quatrième sorte de tawhid. Nous, à cela on dit vous êtes là. Pourquoi? Car les salafs, quand ils ont divisé, seulement trois groupes. Personne n'a le droit de rajouter quoi? Une troisième sorte de tawhid. Premièrement. Deuxièmement, le tawhid du jugement, le hukm, lui-même se trouve inclus dans le tawhid de la seigneurie d'une part et dans le tawhid de la divinité d'autre part. Donc c'est pas la peine de faire de lui quoi? Une sorte yani spéciale. Yani, il y a une quatrième sorte spéciale qui s'appelle tawhid al-hukm. On dit non, ça y a pas en islam. Ensuite, toute personne qui dit il y a tawhid al-hukm, c'est frère musulman, c'est takfiri. C'est frère musulman takfiri mubtadi'a. Naam. Certains, je dis, ont ajouté une autre sorte, une quatrième, qu'ils appellent tawhid al-ittiba'. Ça s'appelle en français tawhid, l'unicité du suivi, tawhid al-ittiba'. Cela, si on va dire que, yani on va ajouter un quatrième, si on va dire qu'on peut ajouter un quatrième, alors on ajoute celui-là, mais pas tawhid al-hukm. Car tawhid, le suivi, c'est-à-dire le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire vraiment ne suivre que le prophète, alayhi wa sallam, mais pas dévier à gauche et à droite. Comme a cité ça, Cheikh al-Islam, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, etc. Mais en général, nous on dit qu'il n'y a que trois sortes. S'il y avait un quatrième, ma'alish, ce serait le tawhid ittiba, voilà, le tawhid de ittiba, le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pas d'autre chose. Al-Muhim. Maintenant, on va commencer par donc le premier tawhid, le tawhid de la seigneurie. Donc, il faut apprendre. On ne peut être muwahid, on ne peut être monothéiste que si on a fait le tawhid dans trois choses. Dans la seigneurie, dans la divinité et dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, aujourd'hui, le tawhid de la seigneurie. Le tawhid de la seigneurie. Le tawhid ou bien l'unicité de la seigneurie consiste à quoi? À affecter ses actes, c'est-à-dire les actes d'Allah Azza wa Jal, spécialement à Allah, en ayant la conviction ferme qu'il est le seul créateur de toutes les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ذَلِكُمُ اللَّهُ وَرَكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. Tel est votre Seigneur, créateur de toutes choses. Donc pour que tu fasses le tawhid de la seigneurie, il faut que tu attestes dans ton cœur avec conviction que Allah Azza wa Jal, c'est lui le Seigneur, créateur de toutes choses. Naam. Il a dit aussi dans le Coran, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi, naam, on doit aussi attester, naam, qu'il est le seul qui pourvoit la subsistance à l'ensemble des bêtes, des êtres humains et autres. C'est ça le dalil. qu'il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Donc, pour faire le tawhid de la seigneurie, tu dois attester que Allah est le seigneur de toutes choses, toutes les créatures, qu'ils soient des humains ou qu'ils soient des bêtes, ou qu'ils soient des insectes ou des fous. Non. Toute chose qui a une âme, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la pourvoit en subsistance. Tayyib. On doit aussi savoir qu'il est le maître de l'autorité. Qu'il est le maître de l'autorité. L'organisateur de toute chose qui se passe dans l'univers entier. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui régit l'univers, n'importe quel univers. Lui seul le régit, comme il veut. Et tu dois aussi attester que c'est lui qui confie et destitue, honore et humilie, c'est capable de toute chose. Il la nuit et le jour, il donne et retire la vie. Il donne et retire la vie. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Dis au maître de l'autorité absolue. Tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies. Tu humilies qui tu veux. Le bien en ta main, tu es omnipotent. Omnipotent, c'est-à-dire, innaka ala kulli shay'in qadir. Tu fais ce que tu veux. Naam. Ensuite, il a dit, tuliju al-layla fi al-nahar, wa tuliju al-nahara fi al-layl, wa tukhriju al-hayya min al-mayti, wa tukhriju al-mayta min al-hayy, wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour. Tu fais pénétrer le jour dans la nuit. Tu fais sortir le vivant du mort. Et tu fais sortir le mort du vivant. Et tu accordes attribution à qui tu veux sans compter. En train de montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui commande l'univers. C'est lui qui commande l'univers. Naam. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour dans la nuit. Tu fais sortir le vivant du mort, le mort du vivant. Comme ici, il fait sortir le vivant du mort. Naam. Et fait sortir le mort du vivant. À part le sens qui est apparent et clair, il y a un autre sens, dans le sens où ça veut dire aussi, il fait sortir le vivant du mort. Le mort, c'est des fois le kafir. Allah Ta'ala du kafir, il te fait sortir un enfant qui est, masha'Allah, musulman. Comme il a fait sortir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad. C'était des kuffars. Et deux, a fait sortir Allah subhanahu wa ta'ala du mort, il a fait sortir le vivant subhanallah l'adem. Et des fois il fait sortir le mort du vivant. Des fois une personne est masha'Allah et son fils il est kafir, a'udhu billah, comme Nuh alayhi salam. Lui le vivant et son fils le mort. Naam. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a dit 27 Naam. Ensuite Tayyib. Ça, c'est pour prouver que c'est lui qui commande l'univers. Donc, on va résumer un peu. Pour faire l'unicité de la seigneurie, on doit d'abord attester. Allah Azza wa Jal, c'est lui, il a dit ici, c'est lui qui est le créateur de toutes les créatures. Ensuite, c'est lui qui pourvoit la subsistance, risque, de l'ensemble des bêtes et des humains. Ensuite, c'est lui qui est le maître de l'autorité. Naam. L'organisateur de toute chose qui se passe dans l'univers. L'organisateur de toute chose qui se passe dans l'univers. Tayyib. Allah Azza wa Jal a nié. Allah Azza wa Jal a nié avoir un associé dans l'autorité ou un assistant. Tout comme il a nié avoir un associé dans la création et la subvenance. Naam, je répète, Allah Ta'ala a nié avoir un associé dans l'autorité ou bien un assistant. Exactement comme il a nié avoir un associé dans la création, la subvenance. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, regardez ce verset, il a dit: Hadha khalqullah, فأروني ماذا خلق الذين من دونه. Voilà la création d'Allah. Montrez-moi ce qu'on crée, ceux qui sont en dehors de lui. Donc il n'a pas d'assistant dans la création. C'est lui qui a créé tout seul. Et regardez bien ce qu'il a dit. Il a dit, voilà la création d'Allah. Je vous ai montré ce que j'ai créé. Montrez-moi donc vous, ce que vous avez créé. C'est pour ça qu'on a dit la fois passée que toute chose que Allah Ta'ala a créée, personne ne pouvait la fabriquer. Et que tout ce que fabriquait l'être humain, Allah Ta'ala ne le créait pas. Pour qu'il y ait vraiment une grande distinction. Pour que tu ne dises pas, je ne sais pas cette chose, par exemple, disons un arbre. Je ne sais pas cet arbre, si ce sont les gens qui l'ont fabriqué ou bien il a été par Allah. Ça c'est grave. Allah Ta'ala a fait de sorte que tout soit distinct. Voilà les choses que Allah Ta'ala a créées et voilà les choses que les gens ont fabriquées. Tout ce que Allah Ta'ala a créé, aucune créature ne peut le créer. Tout ce que les gens ont fabriqué, Allah Ta'ala ne le crée pas. Pour qu'il y ait toujours une grande distinction. Tayyib. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, donc là, il a montré que, question de création, personne n'était avec lui, ni ne l'a assisté. Il va montrer maintenant que la même chose, puisque et comme personne ne l'a aidé dans la création, il est le seul créateur, personne aussi ne l'aide dans le risque. C'est lui qui donne le risque tout seul et pour ses créatures. Il a dit, « Amman hada alladhi yarzuqukum in amsaka rizqah » Ou « Quel est celui qui vous donnera votre subsistance s'il s'arrête de fournir son attribution ?» C'est une question qui veut dire que, bien sûr, ça veut dire la négation. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas. Qui peut vous donner le risque si jamais Allah Ta'ala s'arrête de fournir le risque? Il a dit qui? Qui peut vous donner le risque si jamais j'arrête de donner le risque? Il veut dire qu'il n'y a pas un autre. Car s'il y avait un autre, donc quand Allah Ta'ala arrête de donner le risque, l'autre, le deuxième, va nous donner le risque à sa place. Mais ici, il t'a dit qui? Ça veut dire qu'il n'y en a pas. C'est lui seul qui donne le risque, comme c'est lui seul qui donne la création. De même, il a proclamé son intégration dans la souveraineté par rapport à l'ensemble des créations. Il a dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange Allah, Seigneur de l'univers. Tout l'univers, c'est Allah son Seigneur. C'est pas Seigneur de la terre. Si on va dire Seigneur de la terre, ça veut dire peut-être que la lune a un autre Seigneur, ou bien Mars a un autre Seigneur, ou bien les cieux ont un autre Seigneur. Non, Seigneur de l'univers. Rabbul Alamin, l'Alamin c'est les mondes, Seigneur des mondes. Tous les médias, c'est seul Allah Ta'ala, lui seul, qui les régit. Naam, c'est lui, le Seigneur Azza wa Jal. Il a dit aussi, pour prouver que c'est lui seul, le Seigneur des mondes et de cet univers, il a dit, Inna rabbakumullah, الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين Votre Seigneur c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours puis s'est établi sur le trône. Il manque le haut. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles. Il a soumis aussi à son commandement. Naam. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Regarde la dernière phrase, ce qu'il a dit. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Comme Allah Ta'ala t'a créé, il veut dire par là, comme Allah Ta'ala t'a créé, c'est lui qui doit te commander. Vous avez compris? Comme Allah Ta'ala, c'est lui qui t'a créé. Donc, il doit te commander. C'est un peu, hein, juste pour rapprocher la parole. C'est comme si tu construisais un robot. C'est toi qui l'as construit. Donc, c'est toi qui le commandes. C'est pas possible que tu construises un robot et que c'est un autre qui le commande. Non, c'est toi qui vas le commander. Maintenant, tu as construit, c'est tout. Imagine, Allah Ta'ala t'a créé du néant. Et maintenant, tu veux te rébeller. Tu veux pas que tu sois commandé par lui. Tu veux être commandé par tes passions, tes temps, tes concepts, tes idéologies. Naam, c'est pour ça que Allah Ta'ala dit plusieurs fois dans le Coran. Il dit que celui qui ne commande pas avec les commandements d'Allah, il devient kafir. Pourquoi? Comment d'un côté tu reconnais que c'est lui qui t'a créé, et de l'autre tu nies qu'il doit te commander? C'est pas possible. Toi, ton enfant, tu le crées pas. Seulement, tu lui donnes, yani, tu le fais sortir, on le fait sortir du ventre de sa mère. On ne l'a pas créé. Et pourtant, tu veux le commander. Si jamais c'est le voisin qui le commande, tu n'acceptes pas. Tu dis comment? Subhanallah, celui-là c'est mon fils, c'est mon voisin qui le commande. Et pourtant tu ne l'as pas créé. Imagine, Allah Ta'ala t'a créé, ensuite tu es commandé par d'autres lois. Il n'accepte pas ça, Azzawajal. Non. Ensuite il a dit, Cheikh Fawzan dit, Allah Azzawajal a créé l'ensemble de la création sur l'approbation de sa seigneurie. Il a dit, même les polythéistes, écoutez bien ça, même les polythéistes, les kofars, qui lui ont donné un associé dans l'adoration, lui reconnaissent l'individualisation dans la seigneurie, subhanallah ta'ala. Même les kofars, les polythéistes, qui lui ont donné un associé dans l'adoration, adorer d'autres statues avec Allah subhanahu wa ta'ala. Même ceux-là reconnaissent, yani, que Allah Azzawajal, à lui seul, appartient à la seigneurie. C'est-à-dire, même les koufars étaient quoi? Étaient des monothéistes. Dans quoi? Dans l'unicité, la seigneurie. C'est-à-dire qu'ils savaient que c'est Allah Ta'ala qui a créé l'univers, c'est Allah Ta'ala qui régit le monde, c'est Allah Ta'ala qui fait tomber la pluie. Tout ça, le connaissait qui? Le connaissait les koufars. Il l'a testé, il l'a testé. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, on va citer ça, il a dit, lorsqu'il a il a posé la question, il a dit, قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Allah ta'ala a répondu, il a dit, سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Ensuite il a dit, قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ensuite, il a répondu, il a dit, c'est très clair. Donc, il a dit en français, on va chercher ici les versets, il a dit, dit, ça demande au kofar, qui est le Seigneur? Qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils te diront, ils appartiennent à Allah. Ne craignez-vous donc pas Allah. Subhanallah al-Azim. Écrivez numéro 1. Ya Muhammad, ya Muhammad. Dis aux kuffars, demande-leur qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime. Te dire, les cieux et le trône appartiennent à Allah. Les kuffars vont dire ça. Abu Jahl, les sacliques vont dire ça. Donc, les kuffars reconnaissent le tawhid de la seigneurie. Ils savent que Allah Ta'ala, c'est lui le Seigneur. C'est lui qui les a créés. C'est lui qui régit l'univers. C'est lui qui commande. Naam. C'est pour ça qu'à la fin, Allah Ta'ala dit dans ce verset, il a dit, dis, ya Muhammad, dis-leur, ne craignez-vous donc pas, yani, tu ne crains pas Allah Azza wa Jal, alors que tu sais que c'est lui le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône. Tu sais tout ça et tu ne le crains pas et tu ne l'adores pas. Ensuite, il a dit, dis-leur qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé. Dites-le si vous le savez, répondez. Ils diront Allah. Subhanallah al-Azim. Alors, comment se fait-il que vous soyez ensorcelés au point de ne pas croire en lui? Subhanallah. Vous les kofars, vous, Abu Jahl et Abu Lahab et la clique, vous reconnaissez quoi? Vous reconnaissez que c'est Allah qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses. et que c'est lui qui protège, il n'a pas besoin d'être protégé. Vous le savez, subhanallah, vous dites ça. Mais comment se fait-il que vous sachiez toutes ces choses et que vous ne croyez pas en lui si vous étiez ensorcelé? Naam. Subhanallah al-Azim. Donc, ce qu'il faut savoir quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que les kuffars, naam, combien qu'il y a de sortes d'unicité? Tawhid. Le tawhid de la seigneurie, la divinité des noms des attributs. Le premier tawhid de la seigneurie, même les kuffars le faisaient et le connaissaient. Même les kuffars connaissent et font le tawhid de la seigneurie. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme conclusion? Que si une personne dit, je reconnais qu'Allah Ta'ala existe, et que c'est lui qui fait tomber la pluie, c'est lui qui donne des enfants, c'est lui qui régit le monde, le soleil lui appartient, la lune lui appartient, il dit comme ça. Il n'est pas encore devenu musulman. Vous avez compris? Pourquoi? Car les kuffars, au temps du prophète islam, disaient cela. Et Allah Ta'ala les a cités dans le Coran, dans les versets qu'on vient de voir. Donc ça ne suffit pas de faire le Seigneur, afwan, de faire l'unicité, le tawhid de la seigneurie pour devenir musulman. Ça ne suffit pas. Naam. Le shirk continue et dit, ce monothéisme, c'est-à-dire de la seigneurie, n'est pas porté par un groupe précis, par un groupe précis d'êtres humains. Au contraire, les cœurs des êtres humains sont prédisposés à l'approuver, à approuver l'unicité théorique. Plus qu'ils sont à apôtres que lui, Azzawajal, parmi les créatures. Comme on dit les messagers, dans ce qu'Allah Azzawajal raconte à leur propos, qu'ont dit les messagers? Ils ont dit, قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض leur messager dire y a-t-il un doute au sujet d'Allah créateur des cieux et de la terre y a-t-il un doute ça veut dire quant à quoi quant à que c'est Allah Azza wa Jal des cieux et de la terre non pour ça il n'y a pas de doute même chez les kuffars même chez les kuffars la personne la plus connue pour son ignorance simulée pas, c'est-à-dire pas une vraie ignorance, il a simulé, c'est tout. Et sa négation, feinte du Seigneur, fut Pharaon. La seule personne dans le monde, Nan, qui, Zama, a dit que y a pas, l'univers n'a pas de Seigneur. Nan, c'est qui? C'est Pharaon, Pharaon. Sinon, toutes les personnes du monde, tous les kofars du monde, ont reconnu que Allah Ta'ala, c'est lui, l'univers. Il y a une seule personne dans le monde qui a reconnu cela. C'est qui? C'est le pharaon, Pharaon. Et malgré cela, Allah Azza wa Jalla a montré quoi? A montré que, il y a dans son Coran, que le pharaon lui-même reconnaissait cette chose, mais n'a pas voulu la montrer, n'a pas voulu la dire, a voulu laisser ça dans son cœur. C'est-à-dire, n'a pas voulu montrer que c'est Allah Ta'ala qu'il savait que Allah Ta'ala c'était lui le Seigneur de l'univers. Comme a dit Moussa alayhi salam, Moussa Moïse a dit au Pharaon, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ des بَصَائِرِ. Il lui a dit, tu sais, ya Pharaon, tu sais fort bien que les miracles, les choses là, les miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves ultimes. Illuminante. Il y a Pharaon, au Pharaon, même si tu caches que ces choses-là et ces miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre peut les faire. Il peut les faire descendre comme des preuves irréfutables. Naam. C'est pour ça qu'il a dit un peu plus bas, Allah subhanahu wa ta'ala a dit un peu plus bas, il a dit, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ وَعُلُوَا. Il les nièrent, c'est-à-dire ils nièrent les versets, etc., injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Donc, en lui-même, reconnaissait dans son cœur et dans son fort intérieur, entre lui, que quoi? Que Yani Allah subhanahu wa ta'ala, c'était lui le seigneur de l'univers. Mais il nia cela. Pourquoi? Injustement et orgueilleusement. Naam. Sinon, dans son cœur, Allah ta'ala a mentionné que il croyait avec certitude en cela. De même, ceux qui renient le Seigneur de nos jours, parmi les communistes, ne le renient pas, ou plutôt ne le renient que dans l'apparence, par entêtement. Autrement, en secret, ils ne peuvent que reconnaître qu'il n'est pas d'existant, qu'il n'est pas d'auteur. C'est impossible. C'est impossible qu'il y ait une chose qui existe et que cette chose n'a pas d'auteur qui l'a fait exister. Qu'il n'est pas de créature, qu'il n'est pas de créateur. C'est impossible. Et qu'il n'est pas de conséquence qui n'est pas de cause. Et qu'il n'est pas de conséquence qui n'est pas de cause. C'est impossible. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran. Il a dit: Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Bal la yuqinun. Il a dit: Ont-ils été créés après rien? Ou sont-ils eux les créateurs? Ou bien ont-ils créé les cieux et la terre? Ça veut dire, pour que vous compreniez, qu'est-ce que ça veut dire ces deux versets? Ça veut dire: On ne peut sortir de l'un des trois cas suivants. Ou bien les gens disent qu'ils n'ont été créés. Ils disent: Ce sont des créateurs eux-mêmes. Ou bien ils disent qu'autre les a créés et cet autre ne peut être autre. Je répète, toujours les gens sont dans un cas des trois cas suivants. Il n'y a pas un quatrième. Premier cas, ou bien la personne dit qu'elle n'a été créée de rien. De rien. C'est-à-dire que d'un coup, comme ça, je me suis trouvé comme ça dans ce monde. Je n'ai été créé de rien. Aucune personne, ni aucune force, ni Allah, ni ne m'a créé. Comme ça, yani, je suis venu tout seul. Ça, c'est yani, la première alternative. Et ça, c'est vraiment faux, c'est vraiment contradictoire, c'est vraiment inacceptable qu'une chose vienne d'elle-même comme ça toute seule. C'est pas possible. Maintenant, yani, demain, je vais me réveiller, je regarde le ciel, je trouve trois soleils, alors qu'il n'y en avait qu'un. Comment se fait-il que ces deux soleils sont venus tout seuls? C'est pas possible. Si c'était possible, alors pourquoi il y a toujours un seul soleil? Pourquoi? Pourquoi jamais je n'ai levé la tête, je n'ai trouvé un deuxième ou un troisième? Si les choses pouvaient venir d'elles-mêmes, toutes seules. C'est pas possible. Regardez. Jamais il n'y aura un deuxième soleil. Jamais une deuxième lune. Toujours une seule lune. Un seul soleil. Non, pourquoi il n'y a pas d'autres choses comme ça qui ont été créées comme ça toutes seules d'elles-mêmes du jour au lendemain? Il n'y a pas. Donc, la première, ihtimal, c'est, comment qu'on dit ihtimal en français? C'est pas alternative, hein? C'est, attendez, je cherche le mot, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va m'aider. Supposition, barakallahu fik. La première supposition est fausse. On va passer à la deuxième. Ou bien eux, les créateurs d'eux-mêmes. Alors, maintenant, on va aller à la deuxième supposition. Peut-être c'est nous qui nous nous sommes créés. Nous-mêmes, chaque personne, c'est elle qui s'est créée. Ça, c'est plus qu'impossible. C'est plus contradictoire que la première supposition. Pourquoi? Parce que pour te créer, il faut que tu sois déjà créé. Il faut que tu existes pour pouvoir te créer. Vous avez compris? Moi, il faut que j'existe, ensuite je vais me créer. Sinon, c'est pas possible. Comment vais-je me créer alors que je n'existe pas du tout? C'est pas possible. Ça, c'est plus contradictoire que la deuxième. Alors, puisque les deux suppositions, les deux premières sont fausses et qu'il n'y en a que trois, reste la troisième, c'est quoi? Alors, il y a autre chose, non, autre chose qui nous a créé. Cette autre chose, quoi? Ne peut être que Allah Azzawajal. Non. Tous les autres ne peuvent pas créer. Non. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé. C'est pour ça qu'il a dit un peu plus haut que ce qu'il a dit. Comment se verser une seconde, c'est ce verset. Non, c'est pas ce verset. Voilà. Subhanallah al-Adim. Il a dit. Ont-ils été créés à partir de rien? Ou bien sont-ils eux les créateurs? Les deux, c'est faux. Ou ont tué la terre? Même si tu dis, bon, c'est moi qui me suis créé. Je me suis créé moi-même. D'accord, c'est pas possible, mais supposons. Alors, les cieux et la terre, qui les a créés? Toi aussi? C'est pas toi. Tu reconnais que c'est pas toi. Donc, il y a un autre. Donc, il faut reconnaître que c'est Allah Ta'ala qui a tout créé. Taïb, le Cheikh Hafidhahullah l'a dit, contemple l'univers supérieur et inférieur, dans la totalité de ses, tu le trouveras attestant l'affirmation de son artisan, créateur et maître. Créateur et maître. Renier son artisan et l'abjurer dans les esprits et les instincts équivaut à renier la science et à l'abjurer sans aucune différence. Parce que la science, comme vous savez, la science exacte, confirme l'existence du créateur. La négation, dit Cheikh Fawzan Hafidhahullah, et l'abjuration du Seigneur, desquels se vante le communisme de nos jours, n'est qu'à titre de refus de l'évidence et à titre d'expropriation de l'aboutissement des raisons et des pensées saines. Ce qui est dans ce cas aura infirmé sa raison et appelé les gens à le tourner en dérision. En dérision. Enfin, il a dit, le poète dit, comment l'incrédule peut-il désobéir à Dieu et l'abjurer, alors qu'en chaque chose, il y a un signe qu'il prouve qu'il est unique. Comment l'incrédule peut-il désobéir à Allah Azzawajal et l'abjurer, alors qu'en chaque chose, il y a un signe qui prouve qu'il est unique. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Pour le cours d'aujourd'hui, je vais juste, inshallah ta'ala, résumer pour qu'on retienne l'essentiel du cours. C'est quoi? On retienne. C'est quoi? Une seconde ici. Là. Je vais chercher un lecture 2. Voilà. Chose. Bon, prenons. Pour être monothéiste, pour être mouahid, il faudrait faire le tawhid dans trois choses. Dans la seigneurie, dans la divinité et dans les noms et les attributs. Le tawhid dans les noms et les attributs, c'est dans les prochains cours. Aujourd'hui, le tawhid dans la seigneurie. Ensuite, le tawhid dans la seigneurie veut dire que tu reconnaisses qu'Allah Ta'ala, c'est le seigneur de l'univers. C'est lui qui régit le monde, donne le rizq, c'est lui qui défend, celui qui fait tomber la pluie, c'est lui qui donne des âmes, ôte des âmes, il humilie, il avilie, il fait monter certains, fait descendre les autres, et comme ça, c'est lui qui régit tout cet univers. Ensuite, ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'unicité de la seigneurie, même les kuffars l'attestent. C'est pour ça, si tu entends un kafir dire que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, etc., ça ne veut pas dire qu'il est devenu musulman. Pour rentrer en islam, il faut avoir l'unicité de la seigneurie, avoir aussi l'unicité de la divinité et l'unicité des noms et des attributs. Très important. Naam. Enfin, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'unicité de la divinité s'appelle en arabe Tawhid al-Uluhiyya ou bien Tawhid al-Ilahiyya ou bien Tawhid al-Ibada, l'unicité de la divinité. Car l'unicité de la seigneurie, c'est Tawhid al-Ruhiyya, le Seigneur, Rabb. On dit l'unicité de la seigneurie, Tawhid al-Rubb. Quant à la divinité, c'est Tawhid al-Uluhiyya, ou bien al-Ilahiyya, ou bien Tawhid al-Ibada. Et pour faire la divinité de la seigneurie et l'unicité de la divinité, Il faut savoir que l'unicité de la seigneurie, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal de par ses actes. Alors que l'unicité de la divinité, c'est l'unicité d'Allah de par nos actes. Ça a besoin d'être expliqué. Donc je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire, la différence entre ces deux-là. L'unicité de la seigneurie, j'ai dit, l'unicité d'Allah Azza wa Jal de par ses actes lui-même. Alors que l'unicité de la divinité, l'Uluhiya, c'est l'unicité d'Allah de par nos actes. Pour que vous compreniez. L'unicité, c'est je dois faire l'unicité d'Allah de par ses actes à lui. Que c'est lui le Seigneur du monde. Que c'est lui qui fait descendre la pluie. Que c'est lui qui donne le risque. Que c'est lui qui donne le fond. Que c'est lui qui avidit, que c'est lui qui prend, qui ôte les âmes quand la personne meurt, que c'est lui qui va nous faire ressusciter, que c'est lui qui nous va nous faire rentrer au paradis. Tout ça, c'est quoi? C'est, je fais l'unification, l'unicité à Allah, de par ses actes. C'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait... Je ne dois pas dire, c'est une autre personne. Non, c'est lui qui fait tomber la pluie, pas un autre. C'est lui qui donne le risque, pas un autre. C'est lui qui avilit, pas un autre. Et comme ça, c'est lui qui ôte les âmes, pas un autre. Je fais l'unité d'Allah Azza wa Jal de par ses actes, lui. Naam. Quant à l'unicité qu'on va voir, je vais faire l'unicité d'Allah Azza wa Jal de par mes actes, moi. Moi, prier seulement pour Allah. Je dois égorger Allah. Je dois invoquer seulement Allah. Je dois. Et comme ça. Donc, moi qui, de par mes actes, je dois les vouer à Allah Azza wa Jal. Tous mes actes d'adoration, je dois les vouer exclusivement à Allah Ta'ala. Le tawhid se fait de par mes actes, moi. C'est ça, l'unicité de la divinité qu'on va voir, inshallah Ta'ala. Quant à l'unicité de la seigneurie, elle est qui fait. Moi, je dois seulement reconnaître que c'est lui qui fait, et pas un autre. C'est ça la différence entre les deux, inshallah Ta'ala. Vous n'avez pas compris, il reste beaucoup à dire, et à apprendre dans les prochains cours, inshallah Ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Inshallah Ta'ala pour les questions, réponses, mais je vous donne 5 minutes ou 10 pour que vous preniez les questions. Bi'idhnillahi Ta'ala, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Juste une petite remarque ici. La fois passée, à la fin du cours, j'avais donné le micro et aussi la parole à certains reconvertis pour savoir yani, quelles étaient leurs préoccupations, quels étaient les problèmes qu'ils avaient, quels étaient les conseils qu'ils donnaient, ce qu'ils ont pensé, etc. Pour aider un peu, pour nous aider un peu. Et voir ce qu'il y a derrière les noms et les machins. Mais comme vous avez remarqué que Yanné est entré dans le salon et Yanné est dedans. Le mot, ce que je voulais dire. Attendez, je crois. Non. Ce que je voulais dire, c'est que moi, dès que j'ai vu son pseudo, avant qu'il ne prenne la parole, j'ai su dans mon cœur que c'était quelqu'un qui... C'était du louche. Le dos des tekfiris, etc., qui s'appelle ainsi. Mais le problème, c'est que quand il a écrit une chose sur le vote de Bouteflika, etc., les admins n'étaient pas très vigilants. C'est-à-dire, normalement, une phrase pareille, pertinente de pro... Maintenant, quelqu'un de flair, etc., il fallait vite le bon c'est du moins lui donner le raid. Parce que moi, je ne peux pas dans un salon personne, par exemple, le trouver facilement. Mais vous, les admins, vous êtes 4 ou 5, l'Iberg, vous pouvez vite yani, le récupérer et savoir yani, où il est. Sinon, on doit son temps avec quelqu'un pareil. Mouhim, aujourd'hui, inshallah, à la fin du cours, on reprendra cette chose en redonnant à peu près une demi-heure ou bien 40 minutes ou reconvertis pour savoir quelles sont, inchallah ta'ala, leurs préoccupations. C'est pour cela que si ce sont des frères qui vont prendre problème, des sœurs, qu'elles écrivent et qu'elles préparent dès maintenant ce qu'elles ont à dire. Bi'idhnillah ta'ala. Tfadlal, inchallah ta'ala, pour la première question.
Bismillah, wa salat wa salam ala Rasulillah. Vous m'entendez, cher? La samahtoum, cher, je ne peux pas vous envoyer les questions PV pour l'instant parce que je les récupère en même temps. Donc, c'est assez débordé sur mon écran. Donc, je pose la première question sur le cours, Inch'Allah. Et cher, si vous pouvez me dire comment vous souhaitez, est-ce qu'on pose que des questions sur le cours pour commencer, ou c'est une par une comme vous souhaitez, cher?
Sur le cours d'abord, au moins une demi-heure. Ensuite, on va voir s'il y a une demi-heure ici. On est toujours dans le cours. Pas, Inch'Allah ta'ala, faire une par une. Tfadlal.
On commence, Inch'Allah, cher. Inch'Allah, cher. Donc, première question d'une sœur qui dit vous avez dit que nous devons lire seulement les livres de Shuyukh Salafi. Moi, j'ai un livre de Cheikh Al-Arifi et aussi le livre Ne sois pas triste. Vous m'avez dit que ce n'était pas des livres sur. Il manque un mot. Qu'est-ce que je fais de ces livres, cher? Barakallahu fikoum. Donc, que doit-on faire des livres de personnes qui ne sont pas sur la salafia?
Alaykoum salam, le livre Ne sois pas triste, je ne sais pas de qui il est, elle n'a pas cité l'auteur. Quant à l'Arifi, moi non plus. Arifi, c'est une question sur la Aqida, il a dit c'est quoi cette Aqida toute la vie. Il a dit une demi-heure ça suffit. Une demi-heure Aqida ça suffit. Et dire que, on a vu qu'est-ce que ça veut dire salafi, puis on a dit que salafi c'était, le tarkiz, c'était yani se baser sur la aqida. Le salafi, c'est d'abord la aqida. S'il n'y a pas d'aqida, il n'y a rien. Il n'y a rien, pense le salafi. Pas salafi, c'est pas grave. Ah, c'est pas très. Même autre chose. Donc le livre de Al-Qarni de l'Arifi, qui tous les deux ne sont pas des salafis, surtout Aïd Al-Qarni, il est beaucoup plus. Il croit que Zama, il veut montrer qu'il est salafi. Le Mouhim, ces livres, il ne faut pas les lire. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Quand vous voulez. Mais ne pas les lire et ne pas les donner aux gens. Ne pas les donner aux gens pour les lire. Il faut, yani, s'il y a un endroit où les cacher, ensuite, yani, ne plus jeter des coups d'œil à l'intérieur, ni les donner à des amis. Si c'est permis, même si on veut, par exemple, les enterrer quelque part. Dans un endroit où on sait que personne ne va les prendre, bi'idhnillah ta'ala. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante. Question d'un frère qui demande. Ahsanallah ilaykoum. Vous avez rappelé en début du cours qu'il faut revenir au Coran et à la Sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Mais il y a certaines personnes déviées qui disent la même chose. Donc comment faire la distinction avec les gens de la Sunna authentique? Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khairan, cher.
Le prophète sallam m'a dit que nous les messagers, on ne laisse pas d'héritage. Quand on meurt, on laisse le ilm. On laisse le ilm. Ensuite, il a dit les ulama, savants, héritiers des messages. Parce qu'ils héritent quoi? Ils héritent sa science. Nous, ces gens-là, quand ils disent c'est nous, El Sunna ou Jama'a, et c'est nous, on va leur dire, est-ce que vous suivez les grands savants? Est-ce que vous suivez ce que dit Cheikh Ibn Uthaymin, ce que dit Cheikh Fawzan, ce que dit Sadhan, ce que dit Zayd al-Madkhali, ce que dit Rabi' al-Madkhali, ce que dit Cheikh Najmi, rahimahullah, et ce que dit, est-ce que vous suivez cela? Si ce sont vraiment donc de El Sunna ou Jama'a. Mais s'ils suivent Abu Qatada al-Filastini, ou bien ils suivent Maghraoui, ou bien ils suivent je ne sais qui, les grands Tkfiriyen, le Fizazi et la clique Hado, l'âme, on leur dit là vraiment, vous ne faites pas partie de Al-Sunna al-Jama'a, même si vous le prétendez. La preuve, l'âme, vous ne prenez pas des grands savants. Les grands savants, ce sont comme des, comment on appelle ça, des lampadaires qui illuminent, que Allah Ta'ala a envoyé pour illuminer aux gens, leur montrer le chemin. Et vous, vous ne les suivez pas, alors que vous savez que eux, ils suivent les pieux prédécesseurs, et vous prétendez que vous, vous suivez les pieux prédécesseurs. C'est pas possible. Non. Voilà quelque chose qui montre que vous êtes des menteurs et que vous mentez aux gens, c'est tout. C'est pour ça que trouver que même les takfiris, de temps en temps, ils te disent « Cheikh Ibn Uthaymeen a dit ». Même les takfiris, de temps en temps, ils te disent « Cheikh Ibn Uthaymeen a dit », même « Cheikh Al-Albani a dit ». Mais en fait, ils ne prennent d'eux que ce qui les arrange. Naam. Est-ce qu'ils aiment Ibn Uthaymeen ? Est-ce qu'ils aiment Cheikh Ibn Uthaymeen ? Cheikh Al-Albani, non, ils ne les aiment pas. Mais ils prennent d'eux seulement ce qui les arrange. Tandis qu'Al-Sunna al-Jama'a prennent, naam, prennent ce qui les arrange et ce qui ne les arrange pas. Subhanallah l'adhim. C'est ça la différence entre les vrais, les sincères de Al-Sunna al-Jama'a et les faux dévots.
Barakallah fikoum, cher. Question suivante, question d'une sœur qui dit, cher, j'aimerais que vous répétiez le dalil de la sunna concernant le fait de suivre la sunna selon les pieux prédécesseurs. Vous aviez dit une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, vous pouvez expliquer le fait que ce qu'on fabrique n'est pas la création d'Allah, car ce n'est pas clair. Tout est création d'Allah, même nos actes, non ? Hayakumullah, cher.
Je n'ai pas compris la première partie de la question. Quand elle a dit la sunna, ce que j'ai cité sur la sunna. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'elle veut dire ? J'ai pas compris. Et je ne sais pas exactement de quoi elle parle. Si quelqu'un peut-être se rappelle, ou bien elle-même, si elle peut me donner quelque chose qui m'orienterait pour que je sache ce qu'elle veut. Je phrase de Ibn al-Qaïda aussi, lorsqu'il a dit « Tout ce que Allah Ta'ala crée, la personne ne peut pas le fabriquer, l'être humain, ou le construire. » Allah Ta'ala ne le fabrique pas. Ne le crée pas, Afwan. Voilà ce que j'ai voulu dire. J'ai pas voulu dire que, et je ne dis pas, et je n'ai pas dit, que ce que nous construisons, Allah Ta'ala ne l'a pas créé. Ce que on fabrique, nous, Allah Ta'ala ne le crée pas. Mais nous ne fabriquons qu'avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Allahu khalaqa, comment ta'maloun ? Comme il a dit, c'est lui qui vous a créé. Est-ce que vous fabriquez ? Il a créé nous-mêmes, il nous a donné la raison, nous a donné les mains, les yeux, etc., pour pouvoir fabriquer des choses. Mais la chose qu'on fabrique, si on fabrique une voiture, Allah Ta'ala ne va pas créer la voiture. Et on ne va pas dire c'est Allah qui a créé la voiture, mais on va dire c'est l'être humain qui a fabriqué la voiture. Certes, il l'a fabriquée avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, car c'est lui qui l'a créé, il lui a donné la raison, les yeux, etc., et la main pour pouvoir construire. Parce que la personne a construit la voiture, Allah Ta'ala ne va jamais créer une voiture. S'il va créer une voiture, il n'y aura pas de distinction. Où est la voiture d'Allah et où est la voiture de la personne. Donc Allah Ta'ala veut montrer que personne ne peut le fabriquer. Les êtres humains fabriquent, Allah jamais ne le crée.
Je tiens juste à rappeler que sur le salon BIS, vous ne pouvez poser que des questions qui ont un rapport avec le cours. Et le cours n'est pas, les questions ne doivent pas être des questions en rapport avec la aqidah en général, mais avec les points évoqués par Cheikh aujourd'hui, si c'est possible. Barakallahu fikoum. En attendant les précisions, donc question d'un frère qui dit « Salam alaikum Cheikh, combien de piliers a le tawhid ?» Et souvent, on parle du kufr bitaghut. Pouvez-vous expliquer ce pilier, hayakumullah, cheikh?
Je ne sais pas si le frère parle des piliers de la foi, sont six, ou bien s'il y est du tawhid, le tawhid de la seigneurie, le tawhid de la divinité et le tawhid des noms et des attributs. Quant au kofr bitaghut, ce n'est rien. Ce n'est rien, c'est-à-dire, dans le sens où ce n'est pas un pilier. C'est juste quelque chose qui se trouve quoi? Qui se trouve, comme on l'a dit tout à l'heure, même seigneurie, car c'est Allah Azzawajal qui commande et qui yahkum, qui juge l'âme, le seul, le législateur. Donc ça rentre dans la seigneurie. En même temps, tawhid al-ibada, la divinité, car nous ne devons juger que par les lois d'Allah Azzawajal. Et un pilier comme ça, qui est un pilier qui est le pilier du jugement. Et ce sont seulement les ou bien aussi les frères musulmans qui disent de cela.
Comme cheikh, la sœur d'avant donc dit, vous avez dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui me suivent sont, et elle n'a pas entendu la suite en fait, si vous voyez où c'est cheikh.
Non, j'ai compris. J'ai dit que. Maintenant, supposons on va prendre un verset. Supposons on va prendre un verset ou bien un hadith. Taïeb. On va prendre par exemple le verset qui dit par exemple Wa ma ramayta id ramayta, walakin Allah rama. C'est pas toi qui as jeté quand tu as jeté la lance, quand tu as jeté la poussière et la terre sur les yeux des kuffars. Mais c'est Allah qui a jeté. C'est un verset, ça. Si quelqu'un maintenant va l'expliquer, d'après l'explication, par exemple, de la secte des Wahdat al-Wujud, qui disent que Allah Ta'ala et l'univers, ça fait une seule partie. Allah et le Créateur et la création, ça fait une seule partie. Il te dit, c'est ça la preuve. Regarde le verset. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est pas toi, ya Muhammad, qui a jeté la poussière, mais c'est moi qui ai jeté. Ça veut dire, toi, c'est moi. Toi, et Mohamed, c'est moi, Allah. La preuve, c'est pas toi qui as jeté, et Mohamed, mais c'est moi qui ai jeté. Alors qu'on sait que c'est Mohamed qui a jeté la poussière. Mais là, tu lui as dit, c'est pas toi qui as jeté, c'est moi. Il va dire, donc, regardez, c'est une preuve que Allah, c'est Mohamed, et Mohamed, c'est Allah. Donc, le créateur, c'est la création. Et comme ça, on devient kuffar, a'udhu billah. Ou bien, il va te citer un hadith authentique dont que Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit, je suis tombé malade, tu n'es pas venu me rendre visite. Non, je t'ai demandé à manger, tu ne m'as pas nourri. Je t'ai demandé à m'abreuver, tu ne m'as pas abreuvé. Non, il va te dire, tu vas dire, Allah, comment tu tombes malade? Il va dire, non, X est tombé malade. Si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé là. X t'a demandé de l'eau, X t'a demandé de le nourrir. Donc, au début, il a dit, c'est moi qui suis tombé malade, c'est tombé malade. Donc, moi, Allah, c'est lui le malade. Donc, le malade, c'est Allah, et Allah, c'est le malade. Donc, le créateur, c'est la créature. Et comme ça, on rentre dans Wahdat al-Wujud, on devient kuffar, a'udhu billah. Mais si on va expliquer, d'après l'explication des pieux prédécesseurs, on va... Alhamdoulilah, on va être préservé de l'égarement. Naam, on va dire ici, Allah Ta'ala a dit, c'est pas toi, ya Muhammad, quand il a dit, c'est pas toi, ya Muhammad, qui a jeté la poussière, mais c'est moi qui ai jeté. On va dire, regardez, Allah Ta'ala a reconnu que c'est Muhammad qui a jeté. Il lui a dit, c'est pas toi qui a jeté, quand tu as jeté la poussière, donc tu as jeté. Mais c'est moi qui ai jeté, ça veut dire, ya Muhammad, toi tu as jeté, et moi j'ai dirigé. J'ai dirigé la poussière dans les yeux des gens. C'est-à-dire que c'est impossible, tu prennes comme ça une poignée de poussière, tu la jettes comme ça sur des gens, que ça aille directement dans leurs yeux, et ça les aveugle. Ça, c'est pas facile. Donc il a voulu dire à Muhammad, toi seulement tu as jeté, et moi, la finalité, ça m'appartient à moi. Et la même chose pour le hadith, yani, que c'est mon serviteur qui est tombé malade. C'est mon serviteur qui est tombé malade et pas moi. Je dis à la sœur, les sahaba, les compagnons, et leurs enfants, ces trois générations, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a donné une tazkiya. Il a dit, vous êtes les meilleurs des gens. Les meilleurs des gens, ce sont ma génération et celle qui la suit et celle qui la suit. Donc toi, quand tu prends un tafsir, le tafsir, l'explication d'un verset de ces trois générations, ou bien l'explication d'un hadith de ces trois générations, ça veut dire que tu as pris quelque chose de solide. Tu as la tazkiya. La tazkiya, ces gens ont la tazkiya du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement aux autres savants, aux autres nations, ils n'ont pas la tazkiya du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que j'ai voulu dire, l'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez un exemple très simple. Lorsque Allah azzawajal a dit que ceux qui ne jugent pas avec les commandements d'Allah sont des kofars. Imaginez, Abdullah ibn Abbas, et aussi Mujahid et Qatada, mais surtout Abdullah ibn Abbas, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et son cousin, que le prophète, alayhi wa sallam, a enlacé une fois, il a fait une doua, il a dit, Ya Allah, Allahumma faqihu fi din, apprends-lui le din, fais de lui un savant dans le din, wa allimhu ta'wil, et apprends-lui l'explication du Coran, l'exégèse. Celui-là, que sallallahu alayhi wa sallam lui a fait cette doua, naam, il a expliqué le Coran et il a expliqué ce verset exactement. Ceux qui ne jugent pas avec les lois d'Allah, il a dit, c'est pas le grand coffre, c'est le petit coffre. Il n'est pas devenu kafir dans le sens où il va aller éternellement en enfer, mais kafir dans le sens où il n'a pas reconnu la ni'ma d'Allah. Au lieu de juger avec les lois d'Allah, il est en train de juger avec d'autres lois. Il a dit, n'est pas kafir le grand coffre, car le coffre se divise en deux. Ça c'est quoi? L'explication des pieux prédécesseurs. Maintenant, il y a l'explication des takfiris, il se dit non. Dans tous les cas, il est kafir. Dans tous les cas. S'il ne juge pas avec les lois d'Allah, il est kafir. Tu lui dis, Abdullah ibn Abbas, comment on fait de lui? Son explication. Et la doua du prophète sallam pour lui. Il te dit non. Bon, comment il va faire? Il va monter, descendre. Il va dire, il ne reste qu'une solution. Il va te dire, le hadith est daif. Daif. Ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas, c'est pas un hadith authentique. Il est daif. Tu lui dis, s'il était daif, comment se fait-il que, rahimahullah, il dit de lui qu'il est sahih? Tu as plus de science dans le hadith que Sheikh Al-Albani, toi? Sheikh Al-Albani qui a passé 40 ans ou 50 ans enfermé dans une bibliothèque. En train d'apprendre des hadiths. Tu es plus savant que toi, le takfiri, qui ne connaît pas, ne fait pas la différence entre un verset et un hadith. Tu viens dire que le hadith est daif. C'est le suivi des passions et des tentations à A'udhu Billah. Que Allah Ta'ala nous préserve. Tafadhal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui demande, que répondre à quelqu'un qui dirait, puisque tout a besoin d'un créateur, d'une cause, qui a créé Allah? Tafadhal, cher.
Ça a coupé. Est-ce que tu peux répéter la question, inshallah ta'ala?
Naam, cher. J'espère que ça ne coupe pas cette fois-ci. Donc la question de la sœur est, que répondre à quelqu'un qui dirait, puisque tout a besoin d'un créateur, d'une cause, qui a créé Allah? Barakallahu fikoum, cher.
En fait, une question pareille ne peut être posée que par un kafir. Seul un kafir ou un athée peut poser une question pareille. Sinon, un musulman, vous savez que c'est impossible qu'il puisse être musulman poser une question pareille. Est-ce que vous m'entendez? Nous, on dit à celui, on lui dit ce qui fait différence entre un mécréant et un musulman, verset, on lui lit le verset, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Différence entre nous, les musulmans, et toutes les kuffars. Naam. C'est de dire que quoi? Que toute chose a besoin d'un créateur. Sauf le créateur. Sauf le créateur. Si tu dis ça, là, musulman. Tant que tu dis que, donc même le créateur a besoin d'être créé, là, c'est la personne est noyé dans le coffre A'udhu Billah. Ensuite, si on supposait, non, parce que quelqu'un va dire aussi une question très ancienne, il va dire, si vous dites que Allah Ta'ala est capable de tout, alors n'est-il pas capable de créer un autre créateur plus puissant que lui? Vous avez compris? Si Allah Ta'ala vous dites qu'il est capable de tout, il n'y a pas de limite à sa capacité. Alors, peut-il créer un autre Allah et même plus puissant que Allah subhanahu azza wa jalla, a'udhu billah. Voyez comment qu'ils pensent. On va leur dire justement, si Allah ta'ala va créer un autre Allah, donc le deuxième sera créé. Ça? Si Allah ta'ala va créer un deuxième Allah, donc le deuxième va être créé. Et du moment qu'il est créé, khlas, c'est plus Allah. Car Allah Ta'ala n'est pas créé. C'est le créateur. Naam, fadlan.
Barakallahu fikoum, cher. Je voulais juste demander à la sœur qui m'avait envoyé deux questions, la sienne plus celle de la sœur qui est en sa présence, de me renvoyer la question car elle s'est effacée à la fois. Question suivante, question d'un frère qui dit: cher, que pensez-vous de la parole « Le musulman, il est musulman à la base jusqu'à ce qu'on ait la preuve qu'il soit salafi » Barakallahu fikoum, cher.
Je suis de cet avis. Je suis de cet avis. Pour être salafi, il faut des dalils. Pour être salafi, il faut des dalils. Que la personne est sur la aqida de Al-Sunnah al-Jama'a et sur le minhaj des salaf salih. Sinon, on peut être tout juste musulman. Ou alors musulman tabliri, musulman tkfir, musulman frère musulman, musulman ceci, cela. Hein? Mais si tu es salafi, il faut des dalils. Il faut des dalils, hein? Que tu suis le dogme authentique. Tu es sur le minhaj. Donc c'est quelque chose. C'est pour ça que il dit que beaucoup de savants disent le contraire. Moi, j'ai lu ça. Je l'ai lu sa semaine. Naam. Comme je crois que c'est Rabbi Ali qui a répondu à cette question. Ça coupe un peu. Je sors une fois et je reviens, inshallah ta'ala, très vite. Une seconde, je me connecte. Donc, je disais que. Naam. Que ça fait pas longtemps, juste une semaine ou là, que j'ai lu cette chose d'un grand savant, c'est Zayd al-Mitrali ou bien Afoun, Mohamed al-Mitrali ou bien Zayd al-Mitrali, qui a dit que, c'est pas possible. C'est pas possible de dire que toutes les personnes yani, qui sont musulmanes sont salafis. Il a dit, c'est pas possible. Il a dit, il y a des ceci, cela, des égarés, ceci, cela, mais salafis, ça a besoin de quoi? Ça a besoin yani, d'un statut plus élevé que simple musulman. Naam. Il a dit, c'est pour ça que quiconque que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé à la salafia, c'est une ni'ma. C'est une ni'ma que Allah ta'ala lui a voulu. Tfadl. Dis-lui que Cheikh Fawzan, Mohamed Ibrahim, Cheikh Islam Taymiya, qu'est-ce qu'ils ont? J'ai pas compris. Non, c'est pas possible. Ils peuvent pas être d'avis contraire. Car la personne, peut-être, n'a pas compris ce qu'ils ont voulu dire. Naam. Si Cheikh Fawzan va dire maintenant que, yani, tous les musulmans sont des salafis, jusqu'à preuve du contraire, c'est impossible. Je lui dis que c'est impossible qu'il puisse dire une chose pareille. Naam. Et s'il sait de Cheikh Fawzan qu'il a dit ça, je lui donne jusqu'au cours prochain, inshallah ta'ala, qu'il nous ramène sa parole où Cheikh Fawzan dit que tous les gens sont des salafis, tous les musulmans sont des salafis, du contraire. Naam. D'accord, tfadl. Une autre question, le temps qu'il ramène cette chose, inshallah ta'ala.
Cheikh Barakallahu fikoum. Question d'un frère qui demande: est-ce que les personnes qui pratiquent le kufr istihlal par ignorance tombent obligatoirement dans la mécréance, cher? Parfois, je suis un peu grippé, je ne sais pas si c'est bien compréhensible.
Afouane, j'ai pas entendu la question, je n'ai pas entendu. Tfadl.
Donc la question du frère est: est-ce que les personnes qui pratiquent le kufr istihlal par ignorance tombent obligatoirement dans la mécréance? Barakallahu fikoum, cher.
Je dis, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, que personne, aucune personne ne tombe dans la mécréance jusqu'à ce qu'elle sache que ce qu'elle vient de faire, ça fait tomber dans la mécréance. Comme a dit Allah Ta'ala, وَمَكَلَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. Je répète la règle, on ne tombe dans la mécréance jusqu'à ce qu'elle sache que ce qu'elle venait de faire faisait tomber de la mécréance. Faisait tomber dans la mécréance. Afoun. C'est une règle, l'âme de Cheikh Ibn Uthaymin, et de laquelle je suis convaincu, bi'idhnillahi ta'ala. S'il y a quelqu'un qui peut me donner un exemple où quelqu'un peut devenir kafir sans qu'il le savait, qu'il nous donne, inshallah ta'ala, un exemple, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadl.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante. Question d'une sœur qui demande: est-ce que le châtiment de la tombe peut être une expiation des péchés avant d'aller au paradis? Donc, est-ce que le châtiment subi purifie les péchés? Barakallahu fikoum, cher.
Naam, le châtiment de la tombe est une des, entre parenthèses, des ni'mas. Même si le châtiment, c'est pas quelque chose de bien. Mais pour le musulman, c'est une ni'ma car quoi? Ça le purifie de beaucoup de péchés, bi'idhnillahi ta'ala. Et il va venir yawm al-qiyamah comme s'il n'avait pas fait de péché. Naam. Si c'était bien sûr quelqu'un de sincère, etc., et qui s'était trompé, avait fait des fautes et beaucoup de fautes, la tombe alors, naam, il aura là-bas un châtiment qui va quoi? Qui va le purifier, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Comme a dit Ibn Taymiyyah dans Majmou' Fatawa et beaucoup de ses livres, et aussi Ibn al-Qayyim. Que la tombe, bi'idhnillahi ta'ala, purifie, naam, le croyant de beaucoup de ses péchés. Contrairement au kafir, c'est la torture. C'est de la torture pour lui, car ça ne le purifie pas. D'un côté, et ça lui fait mal, et de l'autre, ne le purifie pas, bi'idhnillahi ta'ala. Fadlan.
Barakallahu fikoum, cheikh. Question suivante d'un frère qui demande: quelles sont les causes que l'on peut faire pour espérer mourir sur le tawhid? Barakallahu fikoum, cheikh.
D'abord, inshallah ta'ala, faire beaucoup de dua à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire mourir sur le tawhid. Les dua. Il n'y a pas une chose plus importante que les dua bi'idhnillahi ta'ala. Deuxièmement, lire et écouter, naam, les livres et les cours de Al-Sunnah ul-Jama'a. Surtout les livres de la Aqida de Al-Sunnah ul-Jama'a. Troisièmement, ne jamais lire les livres de la Bid'a. De la Bid'a, car ça donne des ondes et la personne peut dévier à la dernière minute à Oudoubillah avec des ambiguïtés. Quatrièmement, ne pas fréquenter les gens de la Bid'a. Ne pas fréquenter les gens de la Bid'a. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de vous préserver tous. Fadl.
Amin ya Rab. Question suivante d'une sœur qui dit: Hafidhakumullah ya Cheikh. Une sœur demande: tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la longueur de ma question, mais j'ai besoin d'une nasiha. J'essaierai de résumer au maximum, inshallah, sans donner tous les détails de ma situation. Ma situation est la suivante. Ma mère est kafira et mon père a apostasié l'islam. Ma mère vit avec un homme sans être mariée et elle m'empêche de me voiler devant lui. Étant donné que je ne vis ni avec mon père ni avec ma mère, ce problème ne me dérangeait pas vraiment car j'essayais le plus possible de ne pas aller chez ma mère. Cependant, j'étais obligé de venir chez elle pendant quelques temps et j'ai essayé de garder mon voile quand je suis dans la maison, mais elle me l'a violemment arraché. Et elle ne me laisse pas rester dans ma chambre et elle me sort de force. En plus de cela, elle me dit des paroles blessantes. Elle me dit que je n'ai pas de respect envers elle alors qu'elle m'a porté 9 mois dans son ventre, que je suis extrémiste, etc., etc. Cette situation me fait beaucoup souffrir et à cause de cela, j'ai du mal à avoir une bonne relation avec ma mère. C'est franc entre nous, etc. Le plus souvent, j'essaie de rester dans ma chambre jusqu'à ce qu'elle me force à en sortir. J'ai mal au cœur et j'ai l'impression que tout ça est de ma faute et que tout le monde est contre moi, aussi bien la famille de ma mère que celle de mon père. Allah Musta'an. Que me conseillez-vous, cher, dans ma situation? Est-ce que je commets un péché en me dévoilant devant le conjoint de ma mère? Est-ce qu'il serait possible d'avoir votre numéro de téléphone en PV afin de vous exposer plus en détail ma situation? Barakallahu fikoum, cher.
Si c'est possible, inshallah ta'ala, de répéter le début, disons les 3 premières lignes, inshallah ta'ala, tfadlal. Pour m'exposer davantage la situation, donne-lui le wasmo. Donne-lui l'adresse mail, inshallah ta'ala, tfadlal.
Naam, cheikh. J'aurais dû répondre à ça en privé, mais je n'avais pas lu avant la question. Donc la sœur dit, ma mère est kafira et mon père a apostasié l'islam. Donc avant, elle vivait loin de sa mère, mais elle a été amenée à retourner chez sa mère pendant un moment. Et le problème, c'est que sa mère vit, donc, elle vit avec un homme sans être mariée à lui. Donc c'est le conjoint de sa mère. Et sa mère ne veut pas qu'elle porte le voile devant cet homme, entre autres, parmi les problèmes qu'il y a avec elle. Barakallahu fikoum, cheikh.
Elle doit garder le voile quand elle est devant cet homme, ce pervers, qui fréquente sa mère, qui elle-même est perverse. Elle doit garder le voile devant cet homme, l'âme, quitte à être frappée, injuriée, on lui crache dessus, ça ne fait rien. Elle garde le voile, l'âme, elle est dans le djihad. L'âme, Allah Ta'ala dit que, yani, comment il a dit dans le Coran, il a dit, c'est-à-dire que il faut être bien se comporter avec les parents. Mais il a dit wa in jahadaka li tushrika bi shay'in aw ala an tushrika bi shay'in, il a dit fala tut'ihuma. S'ils veulent te forcer, na'am, à ce que tu fasses quelque chose pour me désobéir ou bien faire le shirk, il a dit ne leur obéis pas. Maintenant, toi, quand tu n'obéis pas à ta mère, quand tu lui désobéis, quand elle te dit enlève le voile, tu lui désobéis, tu as des hasanats. Non, pour avoir désobéi à ta mère, tu as quoi? Tu as des récompenses. Alors que ta mère, c'est elle qui t'a porté 9 mois et c'est pas elle qui va t'apprendre qu'elle t'a porté 9 mois. C'est Allah Ta'ala qui a dit qu'il fallait lui obéir parce qu'elle t'a porté 9 mois. C'est Allah Ta'ala qui nous a demandé d'obéir à nos mères. Et le hadith qui a dit « ta mère, 3 fois ». Naam. Mais malgré cela, seulement dans le halal et dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. C'est pas dans la désobéissance. Naam. Enlève le voile ou bien devant cet homme ou bien tu n'es pas. Ma'alish, je ne suis pas ta fille dans ce cas. Ma'alish, khlas, je ne suis pas ta fille. Tu veux me faire sortir de cette chose, de la famille, khlas. Ma'alish. Mais patiente pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala te fera une solution. Et si sa mère et cet homme étaient mariés, elle peut enlever le voile, c'est normal. Si sa mère était mariée avec un musulman, dans ce cas, il devient son beau-père. Elle peut se dévoiler devant lui. S'il était musulman, bien sûr. Naam, tfadlal. Subhanallah al-Azim, combien qu'il y a de gens qui souffrent. Et je dis à cette sœur, elle n'est pas la même. Elle n'est pas la seule, afouan. Il y en a des centaines. Seulement en France, il y a au moins 100 ou 200 personnes 100 ou 200 sœurs qui sont comme ça, seulement en France. Non, il a dit même si c'était l'homme est kafir. Non, s'il est kafir, l'homme il peut pas se marier avec une musulmane. Donc leur mariage n'est pas valable, donc c'est pas son beau-frère, c'est pas son père. Non. Si par contre, la femme, non, sa mère est chrétienne, et qu'elle est mariée par exemple à un chrétien, ce chrétien c'est son beau-père. Non. Tfadl.
Toutes ces questions étaient des questions qui m'étaient envoyées en privé, en fait. Question d'un frère qui demande qu'Allah vous accorde le Firdaus à vous et votre famille, qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Donc la question est la question d'une sœur, donc le frère pose la question. Ma question se porte sur la salat. Les prières de Sobh, Maghrib et Isha doivent se faire à voix haute. Elles doivent se faire à voix haute. Enfin, je sais pas. Mais est-ce que les femmes aussi doivent les faire à voix haute? Ou doivent-elles les faire à voix basse? Barakallahu fikoum cheikh. Il y aura une autre question après.
On avait dit plusieurs fois que le fait de lire à voix haute ou bien à voix basse n'était qu'une sunna. N'était qu'une sunna. C'est-à-dire si quelqu'un, au lieu de lire à voix haute, va lire à voix basse, il va pas faire de péché. Et si au lieu de lire à voix basse, il va lire à voix haute, il n'a pas fait de péché. C'est sunna seulement. Mais maintenant, la femme, quand elle est dans la maison et qu'il n'y a pas d'homme étranger avec elle, elle lit à voix haute. Quand on dit voix haute, ça veut dire elle sait entendre. Elle se fait entendre. Elle entend de façon à ce qu'elle entend ce qu'elle est en train de lire. Mais s'il y a des hommes avec elle, des hommes étrangers, son cousin ou le fils de son cousin, ou quand elle lit à voix basse. Elle lit à voix basse, mais il n'est pas là. Non. Une seconde ici, j'ai une question. On a posé la question à, entre autres, je viens de trouver ça maintenant, mais entre autres, on a posé la question à, attendez, c'est qui? Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari. Hafidhahullah ta'ala. Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari. Hafidhahullah ta'ala. La première question, et c'est celle qui nous intéresse, dites-moi si vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez. Alhamdulillah. On lui a dit, Halil asl fil muslim, al-jahl ou annahu salafi. Est-ce que la base, à la base, le musulman, c'est quoi la base? Il est ignorant ou bien il est salafi? Est-ce qu'on dit de lui, un musulman, qu'il est ignorant, si on ne le connaît pas, ou bien on dit c'est un salafi? Après avoir parlé un peu, il dit, al-asl fil muslim annahu muslim, la base chez le musulman, c'est qu'il est musulman. Et quiconque est devenu musulman, il ne peut sortir de cet islam que si quoi? S'il y a le yaqin, la certitude. Ensuite, il dit, wa wasfuhu, et le fait de dire du musulman, annahu salafi, qu'il est salafi, wasfun za'idun al-islam. C'est quelque chose, c'est un rajout, c'est quelque chose de plus que l'islam. Vous avez compris? La base, c'est que le musulman est seulement musulman. Mais si tu dis maintenant d'un musulman X qu'il est salafi, ça veut dire que tu as ajouté quelque chose. Wasfun za'idun al-islam. Kama taqul fulan adl. Comme si tu dis, telle personne est fiable. Tu ne peux pas dire de tous les musulmans sont fiables. Il faut que tu aies une preuve pour dire, telle personne est fiable. Naam. Ensuite, il a dit, idl adala wasfun za'idun al-islam. Car la fiabilité, c'est quelque chose en plus de l'islam. En plus de l'islam. Ça a besoin de connaissances, etc., d'expérience, pour dire que la personne est quoi? Est fiable. La même chose, il dit, pour le fait de dire d'une personne qu'elle est salafi, tu dois d'abord connaître la personne où elle est khibra. Et avoir de l'expérience que cette personne est vraiment salafi. Ou il est tizkiya. Et tu dois aussi savoir que cette personne a une tizkiya. Naam. Ou nahwa dhalik. Et ce qui s'en rapproche, liyuqal fihi annahu salafi, pour pouvoir dire que cette personne est une salafi. C'est-à-dire on ne peut pas dire directement d'un musulman que c'est un salafi. Tfadlan.
Barakallahu fikoum, cher. Le frère a dit qu'il rapporterait des preuves, donc il va sûrement revenir plus tard. Donc la sœur, une sœur demande, cher, j'aurais voulu quelques conseils pour les sœurs ayant plusieurs enfants en bas âge. Et avec la foi qui baisse, c'est très dur de trouver un moment pour le dîn, avec le rangement de la maison, s'occuper des enfants, du mari, etc. Donc quels conseils pouvez-vous leur donner, cher?
Naam, le din, la religion, l'islam, c'est le capital de la personne, c'est le capital du musulman. Vous avez compris? Comme certains, leur capital c'est l'argent, leur capital c'est je ne sais pas quoi, c'est l'héritage, c'est les maisons, c'est les villas. Toi, ton capital, c'est l'islam. Donc, tu dois faire beaucoup d'efforts pour le préserver. Et pour qu'il n'aille pas de toi, il te quitte. C'est pour ça que la plupart des sœurs, je dis par des sœurs, à peu près, disons 8 sur 10, 8 sur 10, qui sont sur le paltok, quand elles se marient, l'âme, elles disparaissent. Elles disparaissent et certaines restent des années, 5, 6, 7, 8, et reviennent. Pas du tout. Non, du tout. Bon, ce n'est pas une obligation de revenir au paltok, non. Mais l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est d'avoir un programme. Non, d'avoir, de faire un programme, comment trouver le temps nécessaire pour toujours s'accrocher et s'agripper et avancer. Non, c'est pas obligé d'être au paltok, mais je dois voir comment faire avec des sœurs pour se rencontrer au moins une fois par semaine, au moins, une fois dans une maison, ou je ne sais où, hein, pour discuter, apprendre le din, écouter un cours, et comme ça. Naam. Il faudrait mettre dans la tête que l'islam, naam, c'est mon capital. C'est ou bien mon paradis, ou bien mon enfer. Donc, je ne dois pas lui donner plus d'importance que le bas monde. Dans la voiture, le mari, tout ça. Tout ça, ça rentre dans le bas monde. J'essaie de voir comment, yani, comment joindre, comme on dit, l'utile à l'agréable. En même temps, j'élève mes enfants, etc. Et je sais que c'est difficile. Mais en même temps, je dois faire un programme. Ne serait-ce qu'une fois par semaine pour rencontrer des sœurs, etc. Et pour apprendre et ne pas lâcher du zeste, comme on dit. Sinon, la personne va couler. Sinon, la personne va couler. A'oudou billah. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous aider. Tfadlan.
Amin. Question suivante, chère d'une sœur qui dit: lorsque vous avez expliqué le verset de Surat al-Fatiha, toutes les louanges sont à Allah, Seigneur des mondes. Est-ce possible qu'Allah ait créé des mondes autres que ce bas monde, celui de Barzakh, etc. Barzakh, je sais pas. Et l'au-delà. Je veux dire, est-ce possible qu'il y ait une autre création ailleurs, avec des livres et des messagers, ou bien si ça avait été le cas, Allah l'aurait révélé dans le Coran. Barakallahu fikoum, cher.
En fait, Seigneur des mondes veut dire le pluriel de Alam. Alamin, Rabbul Alamin. C'est le Seigneur des mondes. Des mondes dont Allah Ta'ala est le Seigneur. Le monde des êtres humains, c'est Allah Ta'ala le Seigneur. Le monde des animaux, c'est Allah Ta'ala le Seigneur. Le monde des insectes, c'est Allah Ta'ala le Seigneur. Le monde des plantes, c'est Allah Ta'ala le Seigneur. Le monde des poissons, c'est Allah Ta'ala le Seigneur. Et comme ça, tout ce qu'il y a dans le monde qui se ressemble, on dit ça un monde. Le monde de ceci, le monde de cela. Tous les mondes, c'est Allah Ta'ala qui est leur Seigneur. Premièrement, Ibn Hajj al-Asqalani a rapporté dans Fath al-Bari, il a dit que Sanadu Hassan, la chaîne de transmission est bonne. Comme quoi, Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, dans le verset où c'est dit que Allah Ta'ala khalaqa sab'a samawati wa min ardi mithlahun, que Allah Ta'ala dit qu'il avait créé sept cieux et la même chose dans les terres, c'est-à-dire créer sept terres. Dans cette phrase que Allah Ta'ala a créé sept terres, car il y a un hadith authentique qui dit que Allah Ta'ala a créé sept terres. Vous connaissez que la personne qui prend il a dit un empan, shibr, d'une terre qui ne lui appartient pas, que Yom Al-Qiyama, on va lui enrouler sept terres sur son cou et on va le faire descendre, yani, et on va prendre de cette terre jusqu'à la septième terre. Donc, celle-là, ensuite, celle qui est en bas, le hadith a dit jusqu'à la septième terre, ce qui prouve qu'il y a sept terres. Al-Muhim, Abdullah ibn Abbas a dit, les sept terres que Allah Ta'ala a créées, ce sont sept terres avec, yani, leur univers. Il a dit sept terres comme celle-là, comme la nôtre. Une terre avec le soleil, la lune, la mer, les montagnes. La nôtre, c'est une terre. Il a dit, il y a une deuxième, il y a une quatrième, il y a sept terres. Il a même dit, avec ces sept terres, chaque terre avec Adam et ses prophètes. Mohammed dit ceci, cela et cela. Il a dit que ce hadith était hassan, bon, même si moi, yani, il ne me convainc pas beaucoup. Ce hadith ne me convainc pas beaucoup, car sinon, yani, ça aurait été cité comme ça clairement, comme a dit la sœur, dans le Coran, bi-iznillah ta'ala. Mais c'est pour vous dire, on est, il y a déjà Abdullah ibn Abbas qui a dit cela, radiallahu ta'ala anhu. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, cheikh. Question suivante, question d'une sœur toujours, qui dit: est-ce qu'il est permis de voyager seul avec sa sœur? Donc une sœur qui demande s'il lui est permis de voyager seul avec sa sœur afin de l'accompagner au pays pour qu'elle se fasse soigner par la ruqya. Sa sœur malade se trouve aujourd'hui dans une clinique psychiatrique, qu'Allah la guérisse. Je profite par la même occasion pour vous remercier pour vos doigts pendant le Ramadan. La sœur qui était malade, alhamdoulilah, est guérie, bihaoulillahi ta'ala. Mes frères et sœurs, soyons fermes sur la sunna et ayons une bonne opinion de notre Seigneur.
Alhamdoulilah pour la sœur qui est guérie. Alhamdoulilah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a guérie. C'est Allah azza wa jal qui a fait de sorte qu'elle soit guérie, alhamdoulilah. Quant à nous, les êtres humains, on n'a pas un atome, yani, en cela, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, le voyage, yani, d'une femme, naam, le voyage d'une femme, son mahram est interdit. Mais maintenant, il faut voir si elle est dans la daroura ou pas. La daroura, c'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui est malade, dans un hôpital psychiatrique et puis n'a personne pour l'accompagner sauf une femme, sauf ceci, ça, Allahu alam, ça peut rentrer dans la daura. On va pas laisser par exemple une femme mourir et dire parce qu'il n'y a pas de mahram qui l'accompagne, donc elle va mourir et après on va l'enterrer. Non, dans la daura, le fait de sauver une âme, c'est beaucoup plus important que de voyager seul ou pas. Mais reste à voir si celle qui sait est ça. Naam, tfadlal.
Allah fait comme cher. Question suivante d'un groupe de frères qui demande: voilà, ma question est pour propager la Aqida, car on aimerait ouvrir un centre en Belgique, car la ville est un nid de Hizbi, qu'Allah Ta'ala les guide. Et on souhaite donc ouvrir ce centre pour combattre ces sectes et la Aqida fausse qu'ils propagent. Comment peut-on s'y prendre? Surtout ici, c'est un nid de Sophie et de sortir les gens de la mer. Barakoum. Naam, Cheikh, surtout en Belgique, il y a énormément de takfiri, ça.
Naam, la Belgique, au niveau du takfir, vraiment dire que, on peut vraiment dire d'elle que ça peut rentrer dans le livre Guinness Adak. On fait rentrer la Belgique dans le livre, comment il s'appelle, Guinness, tel, on lui donne le premier prix dans le tekfir. Le tekfir, ça c'est la Belgique, subhanallah, c'est de l'ama, Là-bas que ça démarre, tu trouves des petits jeunes, des nouvelles comme ça. Non, tous dans le fer, Aoudoubillah. Tous dans le fer, Aoudoubillah. Quant à la question du frère, je n'ai pas exactement qu'est-ce qu'il veut dire, comment doit-on faire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pas compris. Est-ce qu'il veut dire quels sont les livres qu'on doit acheter ou bien est-ce qu'on fait une organe et association? J'ai pas compris exactement qu'est-ce qu'il veut dire par la question. Tfadal.
Je pense qu'il souhaiterait avoir une nasiha sur la manière de s'y prendre pour essayer d'amener le plus de personnes donc qui vont dans ces masajid de Hizbi pour les ramener vers eux. Donc, quelle est la meilleure manière de faire da'wa? Donc, comment baser ce centre? Sur quoi baser ce centre? Les emmener vers leur centre qu'ils vont mettre en place, Inch'Allah. Donc, ils vont faire un centre, une sorte de masjid. Le salafi, Inch'Allah, comment faire pour que ce soit la meilleure da'wa possible et pour amener le plus de gens possible et attirer le plus de gens possible vers leur centre. Voilà que l'on fait comme cher.
Non, à part faire les doigts, comme a dit le frère ici, il faudrait inviter des gens qui ont le niveau requis, qui sont connus pour être des hommes de science, par exemple, et des doigts dans le vrai minhaj. Comme faire de la publicité au centre. Et les gens vont entendre telle personne, mashallah, qui va venir dans le centre, yani donner un cours ou bien faire une dawra pour expliquer un livre ou comme ça. Et alors, ça va aider quoi? Ça va aider à propager yani le vrai dogme et le vrai minhaj. Yani, et les gens vont venir pour yani, assister. Et comme ça va quoi? Ça va se propager. Bi-Idhnillah Azza wa Jal. Non, le mauvais comportement, c'est vrai. Le mauvais comportement chez les salafis, c'est connu. C'est connu chez beaucoup de salafis. Qu'ils font fuir les gens et que beaucoup de gens détestent la salafia à cause du mauvais comportement. Ils disent, si c'est ça la salafia, moi j'aime. Comme ça disent beaucoup. Donc, taqullah subhanahu wa ta'ala, et ne faites pas fuir les gens. Taqullah subhanahu wa ta'ala, pas fuir les gens, bi'idhnillah ta'ala. Et je vous dis, inshallah ta'ala, si vous allez prendre la et apprendre les efforts pour apprendre la aqida aux gens et le minhaj, Allah subhanahu wa ta'ala va vous ouvrir les portes bi'idhnillah ta'ala va vous ouvrir les portes surtout quand vous commencerez à inviter des gens mashallah qui ont le bi'idhnillah ta'ala tfadlan.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui demande, qui dit d'abord qu'Allah vous récompense grandement Yawm al-Qiyamah pour vos efforts à vous ainsi que tous ceux dans le salon. Alors ma question concerne le khula. J'ai lu ceci que je copie et colle, cher. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, le législateur ne contraint pas la femme à se marier si elle ne le désire pas. Plus encore, si elle déteste son mari et que la discorde survient entre eux, son cas n'est pas confié à son mari, mais à ceux qui, de la famille de l'épouse et de l'époux, considéreront où se situe l'intérêt, et ainsi la sépareront de l'époux sans son accord. Car comment pourrait-il la contraindre à rester auprès de lui sans qu'elle ne le veuille? Je voudrais savoir si un homme qui refuse d'accepter le khula, peut-on le faire prononcer par un membre de sa famille sans son accord? Barakallahu fikoum, cher.
Non, le verset qu'il a dit, فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. Quand le verset a dit comme ça veut dire que quand il y a une dispute entre les deux et que ça ne marche plus, non, et que yani, chacun monte sa tête, alors dans ce cas, on fait comme a dit le verset. On va déléguer quelqu'un de sa fille et de sa équipe. Quelqu'un représente la femme. Et on fait venir quelqu'un de sa famille qui le représente lui. Ensuite, ces deux-là, s'ils prennent la décision, par exemple, que les deux doivent comment dire, revenir l'un à l'autre, revenir l'un et se réconcilier, ils doivent se réconcilier. Et si les deux C'est pour ça que tu leur as donné la délégation. Et si les deux décident de les séparer, ils les séparent, même si le mari ne veut pas la séparation. Même si le mari ne veut pas la séparation, car ça, c'est Allah Ta'ala qui a donné, yani, ce statut à ces deux-là. Il leur a dit, si vous voulez, yani, corriger, réconcilier, vous voyez que c'est leur intérêt, faites-le. Mais si vous voyez que leur intérêt, c'est de les séparer, il vaut mieux les séparer. Et si jamais ils les séparent, on va s'arrêter ici, inshallah ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Le temps est terminé, on va continuer la fois prochaine, inshallah ta'ala. On va baisser les mains, inshallah ta'ala. C'est au reconverti, inshallah ta'ala. À peu près une demi-heure pour savoir, yani, quels sont leurs prix, etc. Voilà. On commence, inshallah ta'ala, par la première personne. C'est qui a les mains levées? Pour l'instant, l'art 418. Inch'Allah Ta'ala. Parmi les admins, qui sont Inch'Allah Ta'ala avec nous? Qui sont avec nous? Pour que je sache qui sont Inch'Allah Ta'ala. Alhamdulillah. La femme, la personne, dans sa famille à elle. Elle, dans sa famille à elle, elle peut déléguer, par exemple, un imam. Non, bien quelqu'un qui la représente, quelqu'un de fion, bi'idhnillahi ta'ala. Non. Tayyib. Donc, les admins, vous commencez, inshallah ta'ala, avec ceux et celles qui ont les mains levées. Non. On vous donne à vous, yani, ce qu'ils ont écrit, et c'est vous qui, quoi, qui mettez dans le texte. Si c'est un frère, on lui donne le micro. Si c'est un takfiri ou là, on le bloque quand il commence à parler, inshallah ta'ala. Tfadlal.
En fait, la plupart des, enfin, pas la plupart, mais beaucoup de personnes n'ont pas compris ce que vous souhaitez faire exactement maintenant. Il dit, quel est le, qu'est-ce que veut vraiment Cher? Donc, si vous pouvez réexpliquer partiellement.
Voilà, premièrement, on voudrait que ça soit spécial aux reconvertis, qu'ils soient des hommes ou des... Donc c'est spécial à ceux qui se sont reconvertis, voir quelles sont leurs préoccupations, c'est-à-dire quels sont par exemple les problèmes qu'ils ont, ou alors peut-être avec le cours aussi, le cours par exemple. Que, par exemple, en parlant de moi, par exemple, que peut-être je parle vite, ou bien qui le niveau ne convient pas, ou bien des problèmes personnels. Quels sont ce qu'on peut faire nous? Est-ce qu'on peut faire pour eux pour qu'on sache quels sont les problèmes qu'ils vivent? Naam. Donc, ou bien que ça soit personnel à eux, ou bien qui a rapport avec le salon et les cours. Fazal. Aussi des suggestions. Non, aussi les suggestions. Peut-être des gens ont des suggestions. Voilà, ça rentre aussi dans dans leurs problèmes. Alhamdoulilah. Je suis converti et marié à un musulman. Alhamdoulilah. J'habite au Québec et en ce moment, il y a un problème avec le gouvernement qui veut enlever les signes religieux. Les signes religieux. Ça, c'est vrai. Ça a commencé ces derniers temps. Subhanallah, ça veut maintenant ressembler à la France et ensuite à l'Angleterre aussi qui a démarré. Aujourd'hui, la GRC, qui est la police de la sécurité du territoire, est venue me rencontrer pour me dire qu'une plainte a été déposée contre mon mari. Et moi-même, disons que je porte le voile et que mon mari porte la barre. Nous sommes des extrémistes, etc. Alors que nous ne faisons rien de mal, au contraire, nous travaillons avec notre entourage dans notre ville. Je suis perturbé par cette plainte. Je sais que c'est une épreuve de l'Allah, mais je ne sais pas comment réagir. Que nous conseillez-vous, bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib. Donc, ce que je conseille, c'est premièrement, comme on a vu dans le cours passé, de dire Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Non. Allah nous suffit et c'est lui notre meilleur garant. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ensuite, toujours de ne pas abdiquer facilement. Non, de ne pas abdiquer facilement tant que il n'y a rien d'officiel qui dise que c'est interdit. C'est juste le début. Donc moi, non, je me montre à moi-même que quoi? Qu'inch'Allah ta'ala, je tiendrai jusqu'à la dernière minute. Quand maintenant ça me dépasse et c'est une charge qui est plus forte que moi, il y aura inch'Allah ta'ala d'autres solutions. Mais maintenant, je ne dois pas abdiquer comme ça vite, avoir peur et dire ça y est, c'est terminé, je vais aller en prison, je vais. Naam. Tout ça, c'est le shaitan qui fait peur, bi'idhnillahi ta'ala. Il faut quoi? Il faut résister. Et peut-être, Allah ta'ala alam, que si tous et toutes vont résister, peut-être que eux-mêmes, ils seront obligés de changer de loi. Peut-être que eux-mêmes, ils seront obligés de changer de loi. Je dis, toute la résistance que vous ferez, bien sûr, résister, c'est-à-dire dans les normes du permis. C'est pas de prendre des armes là, non. De résister dans les normes. Tout cela, ça rentre dans le djihad. Djihad fi sabilillah. Naam, ça rentre dans le djihad fi sabilillah. Les efforts qu'on fait, naam, pour rester raccroché, cramponné au din. Bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Inch'Allah ta'ala, si les choses vont empirer, naam, on vous répondra ce qu'il faut faire, inch'Allah ta'ala, dans les prochains jours, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous aider et vous faire une solution. Naam. Tfadlal, inch'Allah.
Allô, est-ce que c'est bon ce qu'on m'entend? Ok. Donc voilà, je voudrais savoir si vous pouvez m'aider parce que au niveau de la religion, comme j'ai dit, je ne sais pas par quoi commencer. J'essaie d'apprendre l'arabe du mieux que je peux, mais on a l'impression de ne pas évoluer en France. Et donc je voudrais savoir si vous pouvez m'aider pour savoir exactement par quoi commencer, le Coran, ou alors que l'arabe, ou un petit peu l'arabe, un petit peu le Coran, un petit peu les hadiths. Et je voudrais savoir aussi si c'est possible de donner des conseils, parce qu'en France, c'est très difficile au niveau de la religion, et pour faire hijra également. En fait, c'est un cercle vicieux parce que pour pouvoir faire hijra, il faut avoir de l'argent de côté. Et pour avoir l'argent de côté, il faut avoir un travail. Mais en France, pour trouver un travail qui est halal et où on a le jumu'ah, c'est très difficile. Donc, je sais que la hijra, ça se prépare, on part pas sans rien. Et en plus, pour faire hijra dans un pays musulman, c'est assez difficile. Donc, savoir si vous pouvez nous conseiller. Ensuite, troisième point. Par rapport au dernier cours, par rapport à Ibrahim, vous avez dit qu'il a acheté de la catapulte due à la chaleur. Et je voudrais savoir comment ça se fait qu'il n'est pas mort, quoi, dû à la hauteur et de la catapulte. Et dernière question, vous avez parlé aussi, vous avez dit qu'il n'y a pas de preuve dans la religion qui interdit la mixité. Et ben moi, ça m'a un peu perturbé parce que. Il me semble que c'est interdit, quoi. Enfin, je pense que j'ai mal compris. Donc, si vous pouvez m'éclairer, voilà, Kalofik. Smahli, excusez-moi. Ouais, j'ai pas entendu. Ouais, donc, par rapport à la mixité, en fait, vous avez dit dans un dernier cours, oui, excusez-moi. C'est un peu le stress. Dans un dernier cours, vous avez dit que, il me semble, hein, qu'il n'y a aucune preuve qui prouve dans la religion que la mixité est interdite. Et donc, moi, ça m'a un peu perturbé parce que j'ai toujours appris que c'était interdit, donc je voudrais savoir si vous pouvez m'éclaircir parce que je suis un petit peu perturbé par ce point-là. Voilà, Kalaoufik, je vous remercie. Excusez-moi de la longueur de mes propos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Des fois, ce frère, des fois, s'approchait du micro. On entendait bien, et des fois, il parlait loin, donc. J'entendais pas. Justement, je voulais savoir qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit que dans la région, rien ne prouve que la mixité était interdite. Ça m'étonnerait que j'ai dit cette phrase. Non. Et si j'ai dit ça, j'ai dû dire ça dans un contexte spécial. Pas comme ça. Sinon, la mixité, c'est clair que c'est interdit. Mais ce n'est pas interdit dans toute chose. Je donne un exemple. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les hommes derrière dans la mosquée. Afouane, les hommes devant et les femmes derrière. Et il n'y avait aucun voile entre eux, ni un mur, ni rien. Si on appelle ça mixité, on va dire que dans ce sens, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit dans une mosquée qu'il y ait des hommes devant et des femmes derrière. Si on va parler du hajj aussi, on va dire que les hommes et les femmes tournent ensemble à côté de la Kaaba, hein, c'est une mixité aussi. Et ici, ce n'est pas interdit, vu que quoi? Vu que c'est un contexte spécial et qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, on ne peut pas faire, laisser les femmes toutes seules, yani, faire le tawaf, ensuite le tour aux hommes, ce serait impossible. Et comme ça. Sinon, la mixité qui donne le haram, et ça c'est haram, bien sûr. Et le mohim, on revient donc un peu marche arrière pour dire. Je me rappelle de certaines choses, sinon il faut, inch'Allah ta'ala, me rappeler, bi'idhnillah ta'ala. Je disais que pour. La hijra, etc. Quelqu'un qui est reconverti a plus d'excuses qu'un musulman de souche qui vit dans un pays de kofar. Surtout, s'il a par exemple ici sa famille, la maison, etc. et il ne veut pas venir. Quant au reconverti, hein, qu'il attende, inshallah ta'ala, de réunir les femmes et enfants en France. Oui, qu'il attende, inshallah ta'ala, de réunir les conditions. C'est-à-dire, comme j'ai toujours dit, qu'il ne va pas venir comme ça, sans un sou dans la poche. C'est pas possible qu'il vienne, que le premier jour où il arrive, il n'a pas où aller, ni pour payer l'hôtel, ni pour louer une maison, ni qu'il va aller sous un pont dormir avec sa femme et ses enfants. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, qu'il attende, inshallah ta'ala, qu'il réunisse, inshallah ta'ala, les conditions. Là, ensuite, il tawakkal à Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout que le reconverti, comme j'ai dit, n'a pas pied à terre ici, dans un pays musulman. C'est pas comme ceux qui sont musulmans de souche. Là, quant au travail, c'est aussi la même chose. Il doit, inshallah ta'ala, faire le maximum pour travailler. Là, si maintenant son travail, tous les travaux qu'il y a contiennent du haram. Alors, il doit choisir celui qui en contient le moins. Vous avez compris? Si là où il travaille, il y a le haram, il n'y a jamais de halal. Dans ce cas, il doit choisir le moindre haram. Naam, le travail qui contient le moins de haram, bi'idhnillahi ta'ala. C'est comme si une personne avait faim, mourait de faim, et elle n'a pas trouvé quelque chose à manger, sauf quelque chose de mort. Une bête qui est morte n'a pas été égorgée. Mais elle a trouvé un mouton mort qui n'a pas été égorgé et a trouvé un âne mort. Est-ce qu'elle a le choix? Elle n'a pas le choix. Elle doit manger quoi? Elle doit manger le mouton qui est mort et non pas l'âne qui est mort. Parce que le mouton à la base, il est permis et l'âne n'est pas permis. Donc il doit choisir le moindre mal, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Ça c'est pour le travail. Ensuite, la hijra, on a parlé. La mixité, on a parlé. La prière du vendredi, on ne travaille pas. On préfère ne pas travailler, travailler le vendredi. Naam, c'est dur pour le vendredi. C'est dur. Mais si jamais maintenant il n'y a que ça, naam, si jamais il n'y a que ça, naam, au moins que la personne prie le dhuhr. Si la personne travaille dans un endroit où c'est pas possible d'être lâché, au moins que la personne prie le dhuhr, naam, il ne laisse pas yani, passer. Sinon, bien sûr, si on donne à la personne le choix, elle doit travailler dans un endroit où on la laisse prier le vendredi. Elle doit travailler dans un endroit où on doit la laisser prier le vendredi. Mais si on n'a pas le choix, au moins de prier le dhuhr, naam, et c'est ça la différence entre le pays de Kuffar et le pays de musulmans. Dans le pays de Koufa, plusieurs fois, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Non. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous aider. Le mohim, c'est de faire le possible de se cramponner. Non. Ibrahim alayhi salam, rappelle-moi ce que tu avais dit sur Ibrahim. Qui peut me rappeler ce qu'il avait dit sur Ibrahim alayhi salam? Que j'ai été. Qu'il a été jeté à la catapulte. Non. Et alors? C'est quoi la question?
Salam alaikum, vous m'entendez? En fait, je voulais savoir s'il n'était pas mort du fait de la chute, en fait, tout simplement. Parce que vous aviez dit que le feu était tellement chaud qu'ils ont dû faire une catapulte pour le jeter dedans. Donc, je voulais savoir si c'était peut-être une question bête, mais ça m'est venu comme ça à l'esprit. N'est-il pas mort par la chute du fait de la hauteur et enfin voilà quoi.
Non. Premièrement, le fait qu'il soit jeté ou qu'il ait été jeté, pas jeté à fond par une catapulte, c'est comme j'ai dit, l'avis de certains. Certains ont dit comme ça, les exégètes. Il n'y a pas un hadith authentique qui a dit cela. Deuxièmement, à supposer que vraiment on l'a jeté par catapulte, et c'est ce qu'ont cité, comme j'ai dit, certains ou alors beaucoup d'exégètes, même s'il n'y a pas de hadith, n'oublie pas que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu montrer au kuffar, naam, que c'était lui le seigneur de l'univers et que c'était lui qui commandait. La preuve, Allah Ta'ala a montré plus grand et plus grave que le fait d'être jeté par la catapulte sans que rien ne lui arrive. C'est quoi? C'est le feu qui brûle toute chose qui est devenue froid. Si le feu qui brûle toute chose, naam, n'a pas pu le brûler. Donc, il en est de la même chose pour le fait d'être jeté par catapulte ou autre. Naam, Allah Ta'ala veut montrer qu'il doit rester vivant dans tous les cas. Et qu'aucun mal, bi'idhnillahi ta'ala, ne peut arriver à une personne quand Allah Ta'ala la préserve. Wallahu azza wa jal a'lam. Naam. On passe, inshallah ta'ala, à une autre personne. Tfadhal. Il y a un des points de ce programme pour apprendre la religion. Naam. Je suis perdu à tellement de choses que je ne sais pas quoi faire. D'accord. Pour apprendre la religion, je vais vous dire une ou deux choses. Il n'y a pas en fait comme ça un livre ou bien deux ou trois livres standard pour tout le monde. Tout le monde doit connaître, comprendre que la faune, commencer par Osul et commencer par ceci, par cela. Non. Regarde, mets dans ta tête que tu dois, Inch'Allah Ta'ala, apprendre le maximum de Coran. Non. Ah, tu n'as pas l'arabe. Oui, tu n'as pas l'arabe. Je croyais que tu avais l'arabe. Mets dans ta tête que l'une des choses principales, c'est l'arabe. Car l'arabe, c'est la clé de l'islam, de toutes les sciences de l'islam. Donc, là, en même temps que tu apprends l'arabe, quelqu'un t'apprend sur un ami ou bien à la mosquée. À la mosquée, c'est sûr que tu trouveras toujours quelqu'un qui veut t'apprendre. Fisabilah. Parallèlement, inshallah ta'ala, par exemple, tu apprends un peu de Coran. Là, quand tu peux, je fais un programme par exemple. Aujourd'hui, je sens que je suis mashallah, donc j'apprends. Aujourd'hui, j'ai la paresse, je ne peux pas. Mais allez, demain. Mais il y a un programme que j'essaie de suivre, inshallah ta'ala. Et comme ça, des livres de Aqidah. Tu lis ce livre, tu le termines, tu lis un autre. Même si ce n'est pas en arabe, même si c'est en français. Naam, livre de Aqidah. Tu écoutes comme ça des cours. Al-Muhim. À chaque fois que tu lis quelque chose, à chaque fois que tu lis quelque chose de nouveau, tu vas voir que la science va augmenter chez toi, bi'idhnillahi ta'ala. Et la foi va aussi augmenter. L'essentiel, c'est pas de croiser les bras. Croiser les bras et de dire, non, c'est pas obligé d'apprendre le mohim, c'est prier les saintes prières, c'est pas obligé que je sois un savant et comme ça. Non, la science, c'est obligé. Et ça, c'est pour ton bien, pour le bien de tout musulman, pour que sa foi ne régresse pas. Pour qu'il avance dans la foi, pour que son cœur soit raffermi. Et comme ça, mashallah. Donc, inshallah ta'ala, il n'y a pas comme ça un programme spécial, mais à chaque fois que tu sens yani, dans ton cœur qu'il y a cette envie, etc., profite, inshallah ta'ala, de lire un livre de Al-Sunna ou Al-Jama'a. Quand tu lis quelque chose, essaie de terminer le livre. C'est pas de lire comme ça un passage et de s'arrêter. Non, je prends un livre, inshallah, jusqu'à ce que je le termine. Et je note des choses. Inch'Allah ta'ala. Wallahu azza wa jal a'lam, puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider. Tfadhal.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, cher, moi je suis converti, ça fait 6 ans, alhamdoulilah. Je suis d'une famille issue de chrétiens, catholiques, évangéliques, c'était moi de Jorah. Voilà, ben, moi c'est carrément la Bible qui m'a amené vers l'islam, parce que j'étais une personne qui lisait beaucoup la Bible, et qui m'a amené à l'islam par rapport aux questions par rapport la façon de comme il parlait de Moussa dedans, de Issa quand il parlait, etc. Je voyais qu'il y avait des choses qui étaient contradictoires là-dedans, et ça fait que je me suis un peu éloigné de cette religion. Et par rapport à ça aussi, que je posais les questions vis-à-vis de ma mère, que c'est les pratiquants dans ma famille très énormément, ça fait que ça m'a amené vers l'islam. En me disant que dans un passage de la Bible, ils disent que Jésus, il dit à Islam, il dit que si je ne pars pas, le bien-aimé ne viendra pas pour parachever la religion. Alors, comme je sais bien qu'en Islam, il y avait le dernier des prophètes, Mohammed, qui est venu, je me suis dit, c'est de lui qu'il parle. La Bible, c'est de ce passage-là, c'est de notre bien-aimé Mohammed, et c'est de là que ça m'a amené à l'islam. Quand je suis rentré à l'islam, je suis tombé dans plein de sectes. Et la une des sectes que je suis tombé, c'était qui? Sur les Takfiri. Moi, je suis un frère de Belgique, de Liège. Et c'est énormément de sectes ici, et je suis tombé justement sur les Takfiri. Mais, Allah est tout-puissant, qui m'a toujours montré les choses, et je me suis éloigné d'eux, car je voyais bien que l'islam, ce n'était pas ça. Alhamdulillah. Et puis je suis tombé sur justement l'établir, mais subhanallah, moi que j'ai une famille de témoins de Jéhovah, je me suis dit leur minhaj à eux, c'est comparable aux témoins de Jéhovah. Il y a rien qui change. Je suis déjà tombé sur des soufis, je me suis dit c'est comparable aux évangélistes. Je me suis dit subhanallah, je suis rentré dans l'islam, subhanallah, j'ai été une victime de ces sectes-là. Alhamdulillah, j'ai commencé à suivre justement les savants. Et c'est de là que je suis tombé dans le minhaj des salaf. Alhamdulillah, qu'Allah nous renforce là-dedans et nous éloigne pas de ça, car c'est la seule voie unique. Et voilà, voilà, chez moi, une question que j'aimerais poser, j'ai fait un petit résumé de ma vie, une question que j'aimerais poser justement nous d'ici, qu'on est des frères de Liège, qu'on est justement encadré par ces sectes-là, qu'on aimerait bien de s'éloigner d'eux. Comment vous pouvez nous donner une essia, comment on peut s'éloigner de ces gens-là et essayer d'étudier, etc. Parce qu'on m'a souvent dit que étudier la science tout seul, sans savant, sans imam, etc., ce n'est pas bon par rapport à la compréhension. Et moi, une fois, j'ai entendu Cheikh Al-Fazan, qu'on l'avait posé la question, justement sur ça, des frères de France, et le Cheikh l'a dit, il dit, continuez à étudier, etc. Et nous, justement, on aimerait bien, comme voilà, la plupart ici des mosquées, ce sont des hizbis qui propagent une aqida fausse et des choses très fausses. Et nous, on aimerait bien, justement, ouvrir ce centre-là. C'est moi qui avais posé la question, justement. Comment on peut s'encadrer, étudier, etc., et rester, justement, dans la voie des salafs. Nous, on fait beaucoup de dawa pour faire sortir les jeunes, justement, d'établir et des soufis, toutes ces choses-là. Comment on pourrait encadrer toutes ces choses-là sans s'éloigner d'avoir des salafs, sans dire des choses qui est pas bonne par rapport à nous, parce qu'on n'est pas des savants. Donc, comment on peut faire? Je sais pas, peut-être que je m'exprime un peu mal, j'ai un problème. Pardonnez-moi. Et voilà, c'est juste pour savoir comment on peut s'encadrer, comment on peut faire, parce qu'on aimerait ouvrir un centre justement pour éloigner tous ces SB et faire revenir les gens dans le hack. Voilà, qu'Allah fait.
Donc pour toi et tous les reconvertis qui sont avec nous, alhamdoulilah pour cette grande ni'ma, qu'Allah Azzawajal vous ait sauvés et qu'il ait raffermi vos cœurs. Et je demande à Allah Ta'ala qu'il vous raffermisse sur le droit chemin. Non, je dis. Pour s'éloigner de cela, justement, il faut s'éloigner, c'est-à-dire ne jamais les côtoyer, ni s'asseoir avec eux, ni dans les cafés, ni à leur mosquée. Amen. Ni aller dans leur mosquée. Et de ne jamais lire leurs livres, ni écouter leurs cours, ni assister à leurs débats, bien sûr. Quant à au centre que vous allez ouvrir, inshallah ta'ala, vous pouvez, inshallah ta'ala, commencer avec ce que vous avez comme moyen, c'est-à-dire dans la science. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un de vous qui maîtrise plus ou moins, qui est mieux que vous, qui peut lire un livre. Et les autres écouter comme ça sans expliquer, ensuite noter des questions, par exemple, et les poser à quelqu'un qui a de la science, Ah, ce serait bien, yani pour ne pas, car beaucoup de savants, j'ai lu comme ça, on dit que c'est permis pour des frères ou là, des sœurs entre eux ou là entre elles de lire un livre sans commenter, mais de lire seulement ce qu'a dit l'auteur et comment qu'il a expliqué, etc. Ensuite, par exemple, de laisser des questions ou bien de les noter pour les poser, inshallah ta'ala, à quelqu'un qui a de la science, bien subhanahu wa ta'ala. Je vous annonce une petite nouvelle, inshallah ta'ala. Si vous voulez, inshallah ta'ala, quand vous ouvrez le centre, na'am, inshallah ta'ala, pour commencer, na'am, d'ailleurs, tfadl, c'est quoi ces deux choses, après je termine ma phrase, tfadl.
Désolé, cher, je voulais couper parce que j'ai peur d'oublier après justement ces deux questions. Justement, ben, la question, ben, vous allez me la répondre, la première question que j'allais poser justement. Et la deuxième question, c'est, voilà, j'ai beaucoup téléchargé des audios de vous sur votre site parce que, alhamdoulilah, depuis j'ai connu votre salon, qu'Allah vous récompense énormément. Là, j'ai des frissons énormément parce que on est des jeunes qui étudient beaucoup. Qu'on a besoin, on a soif de science, on a soif beaucoup de science. Et alhamdoulilah, à chaque fois que je vous écoute, ça m'appelle, les questions, qu'on peut poser des questions, vous êtes beaucoup avec nous, c'est alhamdoulilah, on a besoin qu'Allah vous garde, qu'il vous préserve, parce qu'on a besoin de personnes comme vous qui nous encadrent, justement nous qu'on est ici, côté Europe, et qu'on est entouré de koufars et des SB. Maintenant, la deuxième question, et puis je fais court vite. Voilà, je télécharge justement vos audios et j'ai ouvert un autre salon sur Patac et je repropage vos cours que vous avez fait en 2010, en 2011, etc. Est-ce que vous pouvez me le permettre de propager vos audios et recommencer les cours, nous sur l'Aqida, premier cours, deuxième cours, etc. Chaque jour? Si vous pouvez me le permettre pour pas que je fais quelque chose que vous ne voulez pas, quoi. Barakallah au fait.
Je dis que non seulement à toi, mais à tous ceux qui sont présents dans le salon, qu'ils soient frères ou sœurs, s'ils veulent y aller prendre comme ça quelques cours et les propager, soit en ouvrant un salon, soit en les mettant dans un CD, dans un CD-ROM, et de les donner aux gens, soit de les écrire dans un livre ou un livret, et de les imprimer, de les donner aux gens, propager, tout ça, inchallah ta'ala, je le permets. Je ne permets pas seulement que ça soit avec de l'argent. Vous savez, je ne permets pas que voilà, je ne permets pas que ça soit avec yani de la vente. Mais si c'est quelque chose qu'on donne fisabilillah, ou bien des cours qu'on fait entendre, là, vous avez la permission générale. Vous avez la permission générale. Ensuite, je voulais te dire, inshallah ta'ala, naam, je voulais te dire, inshallah ta'ala, que pour le centre, etc. Quand vous allez commencer, inshallah ta'ala, donc inshallah ta'ala, pour vous aider, je pourrai, inshallah ta'ala, disons, les premiers mois, yani, on pourrait faire, yani, un cours comme ça en direct chez vous, par téléphone, un cours en direct, par exemple, quand vous êtes dans le centre, par exemple, on se donne rendez-vous par téléphone, et comme ça, on fait un cours en direct, par exemple, une fois par semaine, ou bien une fois par 15 jours, ou bien une fois par mois, ça dépend du programme. Et je réponds, inshallah ta'ala, à vos questions. Si, bi'idhnillah ta'ala, je connais la réponse, inshallah ta'ala. Ça, c'est une aide, na'am, obligatoire, bi'idhnillah, subhanahu, azza wa jal. Ça fait 2 mois que je vous cherchais. J'ai envie plus. Na'am, pour vous parler, vous sonne. Pour votre numéro, pour vous parler, vous sonne. L'un des admins, inshallah ta'ala, l'un des admins, inshallah ta'ala, tu demanderas l'un de mes admins, inshallah ta'ala, qui te donnera, il te donnera mon numéro personnel, comme ça pour me contacter à cause de la da'wa, à cause de la da'wa, inshallah ta'ala, à cause des gens, et non pas seulement, car ce n'est pas à cause des questions personnelles. Naam. Tfadlan, on passe, inshallah ta'ala, à une autre personne. J'ai oublié de dire que quand vous lui donnez mon numéro de téléphone, que jamais d'abord jamais mon téléphone n'est ouvert entre la prière du sobh jusqu'au dhohr, entre la prière du matin jusqu'au dhohr, jamais mon téléphone n'est ouvert. Si jamais il est ouvert, c'est pas moi, il ne dépend pas de, il dépend de Oum Abdillah, c'est elle. qui, deuxièmement, ce que je voulais dire, quand Inch'Allah Ta'ala tu me téléphones après le dhuhr ou bien le asr ou bien, il faut d'abord m'envoyer un SMS. Tu m'envoies d'abord un message dans lequel tu dis c'est moi le frère de bien de Belgique, etc. etc. Ensuite, quand je sais que c'est toi, je sais que c'est toi qui sonne, je décroche bi'idhnillah ta'ala, tfadhal. Naam, barallahu fiki. Moi, j'ai. Naam, barakallahu fiki. Moi, j'essaie de faire de mon mieux pour persévérer dans les cours, c'est-à-dire ne pas les rater. Et car beaucoup de gens commencent les cours comme ça un mois, ensuite, et année, ils disparaissent. Moi, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir mon cœur pour que ces cours durent. Bidlin subhanahu wa ta'ala. Et je fais aussi mon possible pour expliquer au maximum. Je fais mon possible pour expliquer au maximum, mais j'essaie de me mettre à la place de la personne qui est en train de m'entendre. Et je me dis que peut-être elle n'a pas compris ce que je veux. Et j'ai peur qu'elle comprenne faux, de travers, ou qu'elle comprenne tout à fait le contraire. C'est pour ça que des fois je rabâche. Des fois je dis la même chose plusieurs fois. Même si on est à la maison, tu dis beaucoup la même phrase. Et moi je leur dis, justement, je sais pourquoi je dis comme ça. Je sais pourquoi je dis comme ça. Et le Mouhim, je demande à Allah Azzawajal de raffermir vos cœurs. De raffermir vos cœurs et nos cœurs aussi sur l'islam. Et de nous aider sur le vrai minhaj et le dogme authentique. Naam. Tfadhal, Inch'Allah Ta'ala, on passe à une autre personne. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis converti, j'aurais une question à vous. Voilà, je pense très fortement que mes parents ont été victimes de sorcellerie. Vu qu'ils sont mécréants, s'ils acceptent, peut-on leur faire ruqya? J'aimerais aussi vous demander un conseil pour mon neveu de 19 ans, qui ne peut être présent aujourd'hui car il a cours demain matin tôt, qui, alhamdoulilah, s'est converti, qui vit chez ses parents, qui islam. Comment réagir au mieux pour lui face à ses critiques sur ses prières sans Kamis Sabah? Qu'Allah vous récompense. Premièrement, pour la première question, Naam, on peut faire une ruqya à des on peut faire une ruqya à des kofars. Le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari, où le sahabi, attendez, je cherche son nom, toujours je trouve certaines difficultés avec son nom, Abu Saïd al-Khudri. Radiallahu ta'ala anhu, naam. Si je me trompe, reprenez-moi. C'est lui, naam, qui a fait une ruqya à un kafir. Quand ils ont demandé à manger, on leur a pas donné à manger. Ensuite, le kafir a été mordu par et lui a fait ruqya en demandant 30 moutons. 30 moutons, sinon je fais pas la ruqya. Ensuite, le prophète sallam a été mis au courant. Et il a dit, laissez-moi une part. Laissez-moi aussi une part. Donc ça c'est permis, inshallah ta'ala. Quant à la deuxième question, pour le neveu, il ne doit pas beaucoup se casser la tête avec ce que disent de lui les gens et les critiques. Les critiques qui viennent de la famille ou même des étrangers. Faut pas d'importance car les critiques doivent venir. On n'est pas mieux que les messagers des prophètes qui ont été critiqués matins et nuits. Toi, quand on te critique, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Si tu étais comme eux, ils t'auraient pas critiqué. Donc te critiquer, c'est une preuve que tu as changé et que tu as ramené quelque chose de nouveau et que, alhamdoulillah, tu es sur le vrai chemin bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc la nasiha que je lui donne, c'est que quand il peut répondre comme ça, pour dire une chose que, par exemple, non, telle chose n'est pas vraie, voilà la vraie réponse, etc. Il répond. Et quand c'est comme ça, des insultes, etc., et des critiques, etc., il les laisse parler. Il laisse parler l'essentiel, il s'agrippe, hein, fait des doigts et s'agrippe. Fait des doigts et s'agrippe. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui fera une solution. Et même qui le critique, hein, il est possible que beaucoup d'eux, pas obligatoirement maintenant, reviendront et viendront vers l'islam, bi'idhnillah ta'ala. Pas obligatoirement maintenant. Peut-être après une année, deux, trois, non, quand il voit qu'il persévère sur le chemin, et qu'il est, mashallah, il a un bon comportement, et ça, beaucoup vont revenir et vont être influencés, bi-idhnillahi ta'ala. Non. Wallahu ta'ala alam. Tfadl. Salam alaikum, je suis alaikum salam. Je suis le seul converti depuis 2005 dans toute ma famille. Je voulais savoir si je serais tenu responsable devant Allah Ta'ala de ne pas avoir fait da'wah à certains membres de ma famille, car je n'ai pas toujours, car ce n'est pas toujours évident. Comme par exemple mes grands-parents qui sont âgés de 90 ans, j'ai eu du mal à leur expliquer. Alhamdoulilah, cher, je vous connais depuis 2010, j'ai beaucoup appris dans vos cours et j'apprends toujours, car les cours sont riches en sciences, aqida, Allah Ta'ala. Là, vous avez fait vos cœurs, vos actes. Est-ce que vos derniers cours seront bientôt publiés sur le site? Car cela fait plusieurs mois que les cours ne sont plus sur le site. Je dis pour le site, le webmaster. Le webmaster m'a appris aujourd'hui que il croyait que c'était quelqu'un qui avait téléchargé beaucoup de cours. C'est ce qui a fait la panne dans le site. Ensuite, il s'est avéré que ce n'était pas cela. Et qu'il y avait comme un virus ou il y a un piratage ou quelque chose de ce genre. Non. Il a dit que moi, par exemple, les admins qui rentrent, par exemple, pour ouvrir le site pour les questions, par exemple, il a dit peut-être l'un d'eux avait un virus ou là un virus dans son ordinateur. Ce qui a fait, il y a un. Ce qui a fait cet incident dans le site. Wallahu ta'ala alam. Mais il a très bientôt, le site reprendrait. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc je reviens à la personne, je lui dis que, alhamdoulillah d'être reconverti, puisse Allah subhanahu wa ta'ala raffermir ton cœur sur cette voie jusqu'à sa rencontre. Bi-idhnillahi ta'ala. Je dis, tu fais la da'wah tant que tu peux. Autant que la personne puisse faire la dawa, qu'elle la fasse pour que Yama, les personnes ne s'agrippent pas à lui et lui disent c'est ta faute, tu ne nous as pas propagé. Mais je dis, quand tu fais la dawa, ça ne veut pas dire qu'obligatoirement ils doivent t'écouter, ou plutôt qu'ils doivent y aller accepter rentrer en islam. Non. Toi tu parles, s'il y a des gens qui veulent écouter, d'accord. Si on n'a pas écouté, laisse-nous cette chose, on en a marre, etc., etc. Donc tu arrêtes de parler comme ça, tu as établi la preuve sur eux. Maintenant, même si tu ne vas plus parler, alhamdoulillah, devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu as établi la preuve sur eux. Ce sont eux qui ont dit, ne nous parle pas, on n'accepte pas. Tu as compris? Car si tu ne parles pas du tout, il est possible que certains veulent que tu parles, ou plutôt ne savent pas, mais dès que tu vas parler, ça va les intéresser. Donc, ils vont dire, c'est lui et Allah qui n'a pas parlé, on n'a jamais entendu ça. Mais si jamais tu parles et qu'ils n'acceptent pas, mais au moins, tu vas dire, ya Allah, j'ai établi la preuve sur eux, j'ai parlé, ils n'ont pas accepté. Voilà ce que je veux te dire. L'essentiel, c'est pas qu'ils acceptent de toi. L'essentiel, c'est que tu dises quand il y a l'occasion de parler. C'est tout. Que tu parles si tu peux. S'ils acceptent ou n'acceptent pas, c'est pas ton ressort. Naam. Tfadl.
Ça nous... Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Cheikh, dernière fois on a déjà parlé, barakalawfik. Je me rappelle ça chaque jour et je pense à vous. Alhamdulillah, c'était un très très bon moment pour moi. Barakalawfikoum pour ça. Cheikh, j'ai une petite question sur les choses que Cheikh vous juste parlé sur le sujet de Rukia pour le kéfir. Je rappelle pas très bien ce hadith. Est-ce que c'était le Rukia pour quelqu'un qui était mordi par les scorpions, ou c'était le Rukia pour quelqu'un qui était possédé par les djinns? Si, parce que je savais pas si on peut faire le Rukia pour les kéfirs, quand même ils font le shirk. Est-ce que si on peut faire le Rukia, ça vient de ça, si c'est Allah, si ça vient de Rahma d'Allah pour les kuffars, si ça Rukia elle veut marcher pour les kuffars, ça c'est la question.
Deuxième chose, petit avis sur votre dorse. En fait, avant, je participais quelques fois dans la daoura de Cheikh Haitham Sarhan. J'ai beaucoup Hafidaoula, qu'Allah lui guide et qu'Allah lui parmi par les gens de paradis. J'aime beaucoup ce Cheikh. J'ai profité beaucoup de cette daoura. Parce que il a passé beaucoup de temps avec nous. Et comment il a fait son dors, il a demandé beaucoup de questions. Donc je pense que c'est très bon quand Chik demande les questions au début de dors, parce que ça nous force de rappeler, de faire les notes. Parce que je pense que beaucoup de personnes qui écoutent votre dors, il juste écoute, mais il fait pas les notes, il révise pas les choses. C'est juste, on passe le temps avec plaisir, bien sûr, mais après on fait pas notre travail dans la maison. Donc je pense que c'est bien qu'au début de Dors, le chef demande les questions de Dors qui était avant. Aussi, je pense que c'est bien que de forcer un peu tout le monde à faire les notes. Pendant qu'un chic il parle, vous répète, c'est très très bien. Chacun peut prendre le cahier et noter les choses qu'est-ce que vous parle chic. Et aussi, je pense que c'est très très bon si c'est possible. Si chic il peut nous, or les admins, vous pouvez nous donner les liens de les matins, les liens de livres. Comme ça, on peut réviser ces livres. On peut lire un peu avant le dors et après le dors. Comme ça, on va profiter le plus de cet apprentissage. Et votre temps que vous passez avec nous, il va être, ça va être plus de mérite. On va avancer plus dans notre science. Et la dernière chose, je voulais juste rappeler tout le monde. Si le jour blanc, ça commence demain, donc pour tout le monde qui gêne jour blanche, faut bien manger matin. Alhamdulillah, barakallahu fikoum, assalamu alaikum rahmatullah.
Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour les conseils, d'abord pour le fait de poser des questions aux élèves, c'est bien, je le faisais autrefois. Maintenant, je ne le fais plus. Non, je ne sais pas pourquoi. Peut-être, voilà, tamallah, il sait. Peut-être donner du temps ou bien. Mais rappelez-moi, inshallah ta'ala, pour que je le fasse au moins de temps en temps. Pour que quand on commence les cours, on commence par poser des questions. Et là, maintenant, ça me rappelle aussi une chose. Et je ne le faisais pas aussi parce que quand tu poses la question, tu dois enlever le raid à la personne qui va répondre. Or, des fois, la personne qui va répondre, c'est un takfiri. Toi, tu attends de lui la réponse et lui, il va écrire des choses qui sont pas bien sur le texte. Comme ça, inshallah ta'ala, on va essayer de refaire ça, inshallah ta'ala. Ensuite, il y a aussi une chose importante. Quand tu as dit pour le matin, je vous donne les là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, pour l'instant, on a seulement deux cours. Samedi, lundi. Samedi, c'est Riyad Salihin. Donc, il faut voir ceux qui ont le livre de Riyad Salihin pour suivre avec nous, yani le hadith. Même si moi, le hadith, comme vous savez, en principe, je l'écris sur le texte aussi. Je l'affiche aussi. Et pour Wasmo, pour le mercredi comme aujourd'hui, donc c'est un livre qui change. Et pour cette fois, c'est le dogme du monothéisme. Le dogme du monothéisme. Mais bien sûr, quand j'explique Riyad Salihin, j'ajoute des choses. Et quand j'explique Fawzan, j'ajoute des choses. Ces choses que j'ajoute, bien sûr, vous ne pouvez pas les trouver sur le livre. Vous les entendrez de moi. Bi-Idhnillah subhanahu wa ta'ala. On passe à Allah Ta'ala Khadija. Tfadl.
Donc la sœur dit, eh cheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya cheikh. Qu'Allah Ta'ala vous récompense. Je suis reconverti depuis un peu plus d'un an, ainsi que sur la salafiyya, walhamdulillah. Plus j'avance dans le dîn, alhamdulillah, plus je ressens le besoin de faire des rappels sur la mort qui peut arriver à tout moment. Donc, je fais ces rappels auprès de ma famille la plus proche. Et je stresse beaucoup malgré mes nombreux du'as. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Est-ce que ceci est un moyen licite pour la da'wa? Et quelle nasiha me conseillez-vous, sachant que ma mère me dit qu'elle est croyante, mais elle baisse toujours les bras et trouve des excuses pour ne pas faire les actes d'adoration? Je commence à ressentir du dégoût à cause de son hypocrisie. Ma mère a étudié chez les témoins de Jéhovah, et moi j'étais chrétienne, astaghfirullah. Ya cheikh, barakallahu fikoum.
Non, j'ai pas compris qu'est-ce qu'elle veut dire par est-ce que ceci est un moyen licite pour la da'wa? Elle parle de quoi? Qu'est-ce qui est licite pour la da'wa ou bien n'est pas licite? Tfadal.
C'est-à-dire, Allahu a'lam, ce que j'ai compris, faire des da'wa en faisant des rappels sur la mort, qui peut arriver à tout moment.
Non, c'est une chose licite. Lui-même, quoi, a fait yani, la da'wa en parlant de le mort, yani, avant de mourir, qu'est-ce qui lui arrive, et quand il va mourir, qu'est-ce qui va lui arriver. Maintenant, j'en suis à faire beaucoup de rappels sur moi. Naam, comme le hadith authentique du Bukhari, que le prophète Hassan, après avoir enterré quelqu'un, il a commencé à frapper le sol comme ça avec un bâton, ensuite il a dit, yani, que maintenant, yani, le mort est en train de quoi d'être questionné. Ensuite, il a dit, voilà quand la personne est sur le point de mourir, voilà ce qui lui arrive, en parlant du musulman, ensuite en parlant du kafir. Donc, je dis, Inch'Allah Ta'ala, chacun a des penchants. Certains veulent parler de la mort, d'autres veulent parler du paradis, d'autres veulent parler de la sira, d'autres veulent parler du tafsir. Chacun, il parle dans la chose qu'il d'un côté, et deuxièmement, dans la chose qui intéresse celui qui t'entend. Quand tu sens que celui qui t'entend aime que tu parles de telle chose dans telle matière, parle-lui de la matière qu'il veut écouter. Ne lui parle pas d'autre chose qui n'intéresse pas, même si c'est Aqida et ça ne l'intéresse pas. Parle-lui de ce qui l'intéresse pour commencer à lui faire aimer la chose. Ensuite, yani, on lui propage petit à petit, yani, inshallah ta'ala, les choses jusqu'à arriver, yani, aux choses vraiment essentielles. Et ensuite, elle dit, quelle nasiha conseillez-vous? Ensuite, la nasiha que je donne, quand elle dit que je commence à ressentir du dégoût à cause de son hypocrisie. Naam. Justement, il faut quoi? Il faut patienter. Celui qui va da'wa, il doit se dire que le résultat n'est pas entre mes mains, mais c'est entre les mains d'Allah. Combien de gens auxquels le prophète a fait la da'wa et ne sont pas rentrés en islam? Et d'autres ne sont rentrés quand il est mort. Et comme ça. Donc toi, quand tu fais la, ne dis pas que c'est que cette personne doit me suivre et doit appliquer ce que je dis, sinon j'arrête la da'wa. Non. Toi, tu fais la da'wa pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui t'a dit de faire la da'wa. Ensuite, le résultat, tu ne peux pas le garantir. Ou bien, il n'y aura pas de résultat du tout. Et qaddara Allah. Mais tu es récompensé chez Allah ta'ala. Alhamdoulilah, les récompenses, il y en a toujours. Ou bien, il y a le résultat, mais des fois, il tarde à venir. Une année, 2 années, 10 années. Allahu alam quand est-ce que. C'est de ne pas dire, puisqu'il n'y a pas de résultat, j'arrête. Sauf bien sûr si la personne te dit, j'aime plus les de cela, laisse-moi tranquille, je ne veux pas écouter, etc. C'est l'akhlas. Tu as établi la preuve sur elle, hein, que Allah Azza wa Jalla guide. Voilà. Et puis, c'est le cœur. Amin wa iyakum. Ensuite, je reviens à Ibrahim de Pologne. J'ai oublié qu'il avait posé une question ou deux pour lui dire que pour le kafir que j'ai cité tout à l'heure pour la ruqya, si le hadith de Sahabi s'appelle, le Sahabi s'appelle Abu Saïd al-Khudri. Et il a fait la ruqya à un kafir, pas le djinn. Hadith de Bukhari Muslim, qu'il a été mordu ou alors piqué par un scorpion. et qui n'a pas accepté de faire la ruqya que 30 moutons, car ils étaient 30 personnes. Et on les avait empêchés, on n'a pas voulu leur donner à manger avant de faire d'être piqués par le scorpion. Et alors, après, je ne fais pas la ruqya 30 moutons. Fatiha 7 fois, naam. Il a lu sur lui la Fatiha 7 fois. D'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, il reste 5 personnes. Je demande à d'autres, inshallah ta'ala, de ne pas lever les mains pour terminer, inshallah ta'ala. On va à Médina 2. Tfadlal ou bien tafadlali? Clé des villes. Est-ce que tu es là? Écrit numéro 1. Ma question était, est-ce que Allah Azzawajal va enlever djinn de quelqu'un qui fait du shirk? Naam, le Coran, écoute, le Coran combat le djinn. Où il est? Le Coran combat le djinn, où il est? S'il est dans un bouddhiste, il le fait sortir. S'il est dans un musulman, il le fait sortir. Le mohim, c'est le djinn qui a mal, etc., qui s'enfuit. Non, sans yani, que ce soit important, que ce soit un musulman ou pas. Non. Taïb. Fika barakla. Médina ou bien clé des villes? Est-ce que vous êtes là? Écrivez numéro 1. Sinon, vous n'êtes pas là. Donc, je descends les mains. Clé des villes. Et là. Clé des villes. Est-ce que tu es prêt à afficher le texte, Inch'Allah? Affiche le texte, Inch'Allah Ta'ala. Muslima Leila dit. Salam alaikum wa barakatuh. Depuis bientôt 3 ans, alhamdoulilah. Je voulais savoir quelles sont les limites à adopter par rapport à ma relation avec ma famille kafira. Car dans un verset, Allah Ta'ala parle qu'il ne faut pas prendre pour ami les kuffars, fussent-ils notre père, etc. Donc je réponds, Inch'Allah Ta'ala, je dis avec les parents, elle dit avec ma famille kafira, avec les pas et la garder les ponts, c'est-à-dire pour pouvoir communiquer, car c'est très important. Ensuite, si c'est des parents, si on a des parents, il faut quoi? Il faut leur obéir tant que ils ne te demandent pas de faire le haram. Quand c'est des parents qui demandent l'argent, par exemple, pour acheter quelque chose de halal, ou bien tu demandes d'aller leur acheter, ou bien les emmener quelque part, non, tu dois obéir tant que tu ne leur achètes pas de haram et tu les emmènes pas dans des endroits de haram. Naam. Et ensuite, yani, il faut leur faire la dawa si c'est possible. Un peu, Inch'Allah Ta'ala, d'essayer d'expliquer, etc. Surtout si c'est eux, par exemple, qui demandent. Peut-être il y a une occasion. Ça, on en a parlé, alhamdoulilah. J'ai dit que la personne doit établir sur eux des preuves, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, quand ce sont des parents, on peut quoi? Nam, on peut et on doit avoir une bonne relation avec eux. Si maintenant on les aime, car c'est interdit d'aimer un kafir. Si jamais je l'aime d'une façon naturelle, pour être mon père et ma mère, c'est tout. Mais je le déteste dans la religion. Nam. Donc, d'un côté. C'est pour ça les savants ont dit, il y a l'amour naturel et il y a l'amour religieux. Donc je ne l'aime pas dans la religion. C'est même mon ennemi. Mais comme c'est mon père, certains ont dit c'est permis de l'aimer, l'amour religieux. Certains ont dit non. On ne doit pas aimer un kafir. Donc tout juste, il y en est, comme on dit, il y en est tout. Mais maintenant, si on prend du deuxième avis, c'est l'avis de Cheikh Ibn Outaymin qui dit on peut l'aimer l'amour. Voilà. On voit sa mère ne pas y aller, avoir de la tendresse envers son père, etc. Mais je déteste son dîn. Je déteste son dîn. Je ne le prends pas comme allié. C'est pour ça je ne le prends pas comme allié. Je lui raconte pas mes secrets en islam, etc. Je lui fais de la da'wa, c'est tout. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, en général, et il faut aller doucement, doucement, bidna Ta'ala. Peut-être que Allah Ta'ala fera de vous une course, vienne vers l'islam. Et ce serait mieux pour vous que. que les chamelles rouges. Ce serait mieux pour vous que les chamelles rouges, comme a dit le prophète Islam à Ali ibn Abi Talib. Naam. Fadal. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa barakatuh. Cela fait un an et demi que je vous suis vraiment. Qu'Allah vous récompense pour vos cours, car j'ai beaucoup à apprendre. Alhamdulillah. J'ai souvent des questions urgentes à poser. D'ailleurs, j'en ai toujours une en ce moment même, mais assez personnelle. Et des questions sur l'aqida, mais je n'arrive pas, malgré que je lève la main toujours du monde devant moi. Khair, Inch'Allah. Jazakallah khairan. Allah vous préserve, vous grâce parmi nous. J'ai le même problème que le frère avec ma famille. C'est très dur de le faire da'wah. De plus, j'habite loin d'eux. Naam. Malish. Quand c'est possible, et qu'il y a rencontre avec eux, je profite, Inch'Allah ta'ala, de dire quelques mots, on ne sait jamais. Mais il faut savoir le moment opportun, et il faut vraiment savoir ce qu'on... Naam. On leur parle des choses qui les intéressent, et qui peuvent probablement les intéresser. Comme de parler, par exemple, du paradis. Même les kofars aiment le paradis, et aiment aller au paradis. Commence par exemple à leur faire intéresser, yani le paradis par exemple. Et comme ça, quand ils commencent à s'intéresser à quelque chose, ils s'intéresseront aussi à d'autres choses. L'essentiel, c'est voir comment avoir toujours les liens avec eux, ne pas couper les liens. Quand il y a la relation, alhamdoulilah, même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain je peux dire autre chose. Mais le problème, c'est quand on coupe les liens. Quand on coupe les liens et on n'a aucun lien avec la famille et les parents, ça sera vraiment difficile. C'est pour ça qu'il faut faire son possible d'avoir un bon comportement, de leur faire, par exemple, des cadeaux dans le sens de c'est pour l'islam. Pas pour les kofars. Les kofars, je ne fais pas de cas attirés vers l'islam. Je voudrais savoir si c'est autorisé de manger avec eux. S'ils ont le vin, car ils ne veulent pas le lâcher à la table. C'est pas autorisé. Non. C'est pas autorisé de s'asseoir dans une table où il y a le vin. Non. Donc, il faut s'excuser. Il faut s'excuser. Ou bien, si tu ne veux pas leur dire, tu trouves des excuses. Comment ne pas être présent le temps où aller à la salle de bain ou je ne sais pas quoi, le temps qu'ils mangent. Mais sinon, et s'ils demandent par exemple pourquoi, tu peux leur dire que par exemple, s'ils savent que tu es musulman, que voilà, ma religion m'interdit de m'asseoir avec des gens qui boivent. Par exemple, s'ils acceptent, bien sûr, s'ils n'acceptent pas, tu as fait ton devoir, tu as dit ce qu'il fallait dire. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Naam. Est-ce qu'il reste une personne qui n'a pas posé de question? Plutôt qui n'a pas parlé encore. Non, mais vous m'entendez. C'est dommage qu'il soit comme ça. C'est même étonnant. C'est pas le premier cas dont j'entends parler. Non. Et des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est la femme, c'est l'épouse qui va mentir au juge, etc. Et remplir son mari. Remplir le truc de mensonge, comme quoi son mari c'est un extrémiste, c'est ceci, c'est cela. Ça aussi, on l'a envoyé plusieurs fois, des cas de sœurs. Mais, comme je dis, il y a aussi des cas de frères. On voit là, un aujourd'hui. Allah Ta'ala dit dans le Coran que إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَةِ اللَّهِ وَلَيْكُمُ الْكَذِبُونَ. Il a dit, ceux qui mentent, ce sont ceux qui ne croient pas en les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont ceux-là les menteurs. Sans parler du faux témoignage. Allah Ta'ala dit, je cherche le verset dans ma tête. Est-ce qu'il a parlé du Zohar? Non, il a dit, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّهُ وَمَرُّوا كِرَامًا. Les gens qui n'assistent pas au Zohar. Et Zohar en arabe, c'est le faux témoignage et tous les péchés. Ça rentre aussi, Zor, c'est le mensonge et le faux témoignage. Donc ceux qui font comme ça, et bon, chez les juges, pour mentir et faire des faux témoignages et accuser les gens qu'ils ont ceci, cela, que les gens n'ont pas, ceux-là ne réussiront ni dans ce bas-monde ni dans l'au-delà. Ceux-là ne verront la réussite ni dans ce bas-monde ni dans l'au-delà. Même si par le biais de ces mensonges, ils font des rentrées d'argent ou bien je ne sais quoi, des pensions, je ne sais quoi, hein, tout ça, ça va se retourner contre eux. Et cet argent qu'ils vont prendre, ils vont l'acheter comme médicament pour les maladies qu'ils vont avoir comme épreuve de Allah subhanahu wa ta'ala et châtiment. Donc j'annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont sincères, à ceux qui obéissent à Allah ta'ala, à ceux qui ne mentent pas, à ceux qui n'ont pas de faux témoignages. Ceux-là auront la victoire, inshallah ta'ala, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Voilà, inshallah ta'ala. Donc, est-ce qu'il reste la dernière personne, inshallah ta'ala, avec laquelle on termine? Tfadal. Taïb, je dois m'arrêter, inshallah ta'ala, ici. Surtout que les personnes ayant la main levée n'ont pas pu poster leur message. Donc, inshallah ta'ala, qu'ils laissent leur message, qu'ils l'écrivent, inshallah ta'ala. Quand il va rester un quart d'heure, inshallah ta'ala, on va leur donner yani, la main, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanak lahumma wa bihamdik. Shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Salamatullahi wa barakatuh.